Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Victoire obligatoire, quelle que soit la manière, selon le sélectionneur.
On peut disserter, il n'y a qu'une chose.
Son équipe n'a pas le droit à l'erreur.
C'est le résultat.
Encore faudrait-il pour cela qu'il commence à jouer au football, ce qui n'a pas vraiment été le cas.
Vous suivez Au bout du foot avec Malik Eudy et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h, sur monparisfm.com.
Là, 20h37 minutes sur Mon Paris FM. Soyez les bienvenus. Vous êtes dans Au bout du foot, 90 minutes de foot avec mes compères. Je vais saluer Eladj. Salut Eladj.
Salut Malik.
Je vais également saluer Alexandre. Salut Alexandre, ça va ?
Salut Malik, ça va super.
Bah, la forme ?
Ouais, super.
Et également vous dire que notre ami Jason Lindor est du côté de la technique et puis Maeva aussi est là pour la captation de belles images et on va espérer aussi qu'on aura de bons propos hein, ici même dans cette émission Au bout du foot. Vous dire également que nos amis Chakenza ainsi que Philippe ne vont pas tarder à arriver et puis notre ami du quotidien du sport.fr Stéphane Desenclos arrivera également dans quelques instants. Vous avez l'habitude dans les amis le week-end là, il s'est passé comment ? Beaucoup de foot, beaucoup de sport, vous avez fait quoi ?
Moi, beaucoup de foot. Hein. Beaucoup de foot. Hein. Je suis
toi,
pas sorti, comme d'hab. Ouais.
Ah, t'es même pas sorti ?
Non, je suis même pas sorti. Le dimanche, je suis pas sorti. Le samedi, un peu, mais le dimanche, je suis pas
t'as
sorti.
T'as regardé combien de matchs, là ?
Je sais pas, hein, mais je regarde tout. Hein. À partir de midi 30, ça commence là, wow. 13h jusqu'à.
Avec tes 23 trois écrans. Quoi. Avec tes trois écrans.
Exactement.
Alex, et toi ?
Ouais, pareil, hein, du foot. Bon, le travail aussi, mais surtout du foot et la victoire du Barça hier.
Ah, t'as kiffé?
Ah, j'ai kiffé.
Ah, mais
j'ai
t'as supporté du Barça,
attends, t'as t'as côté des lags, attention.
Ah ouais, bah fallait te mettre en face déjà.
Ça va être chaud, là. T'as côté des lags en plus. Ah ouais.
J'ai pris du plaisir.
Ça va pas le faire, hein. T'as côté des lags, là. Je sens que la bagarre va commencer, là. Bon, les amis, on va ouvrir avec le sommaire. Ouais. C'est parti.
Au sommaire d'Au bout du foot de ce 18 mars 2024, la question Au bout du foot. Kylian Mbappé est-il le plus grand joueur de la Ligue 1? La question est posée à nos chroniqueurs. 30 secondes chrono. Chaque consultant donne son fait marquant foot en 30 secondes. Coupe européenne, retour sur le tirage au sort des quarts de finale des Coupes d'Europe. Peut-on dire que le Paris Saint-Germain est favori face au FC Barcelone ? Qui de City ou du Real a le plus de chances de se qualifier ? Quelles sont les chances d'Arsenal face au Bayern Munich ? En Europa League et en Conference League, quelles sont les chances de nos clubs, Marseille et Lille, respectivement, face au Benfica et à Aston Villa. Au bout du foot, se mouille comme jamais. Un week-end en Ligue 1, l'Olympique de Marseille, freiné à l'extérieur par Rennes. Le RC Lens écrasé par Nice. Le Paris Saint-Germain renoue avec la victoire. Quel résultat a retenu votre attention ? La chronique, quel choix pour quel résultat ? Antoine Comboiré, de retour au FC Nantes. Quels enseignements doit-on tirer de ce énième chamboulement chez les Canaries ? Peut-on d'ores et déjà dire que le FC Nantes a déjà assuré le maintien ? La question est posée. Le dossier Au bout du foot. Jeux Olympiques Paris 2024. Qu'attendez-vous de la sélection tricolore de Thierry Henry ? Quels sont les trois cadres âgés de plus de 23 ans ? Thierry Henry doit-il convoquer ? Au bout du foot, l'essentiel du foot, en 90 minutes, ça se passe sur monparisfm.com en partenariat avec le quotidien du sport. Bienvenue.
Bienvenue, en effet, à 20h41 minutes, au bout du foot. On va commencer, les amis, avec le 30 secondes chrono. Chaque consultant donne son fait marquant un foot en 30 secondes. C'est parti.
Alors moi, mon fait marquant, vu que là, c'est la trêve internationale, je voulais parler de la Turquie et les deux victoires de Galatasaray et Fenerbahçe qui continuent le mano à mano avec 80 points pour pour le Galatasaray et 79 pour Fenerbahçe. Et donc il y a une confrontation qui arrive le 12 mai. Et je voulais faire un petit point sur ça parce que c'est très très intéressant ce qui se passe du côté de la Turquie et très alléchant sur les deux clubs d'Istanbul. On ne sait pas qui va remporter le championnat. Voilà.
Quand tu as évoqué la Turquie, j'ai pensé à la bagarre là tout de suite.
Ah ouais,
qui
ouais.
s'est déroulée ce week-end. Il y avait vraiment.
C'était le match de Fenerbahçe, justement.
Oui, c'était le match de Fenerbahçe. C'était une dinguerie quand même sur la pelouse. À ne pas revoir ça sur les terrains de foot parce que franchement, ça peut dégénérer. Hein. Ça a dégénéré, mais ça aurait pu être encore plus grave. Hein. Je sais pas, Eladj, ensuite tu as suivi un peu les.
Ah, moi j'ai suivi,
les
franchement,
bagarres,
c'est parti.
Là, j'ai vu des Batshuayi en train de faire des taekwondo sur la pelouse et tout ça. C'était
il y avait Oyoi aussi, je crois, c'est ça son prénom. Ouais. Lui aussi, il s'en est donné à cœur joint. Je pense qu'il avait, il en avait gros sur le cœur. En tout cas, on l'a vu beaucoup taper très fort, en tout cas.
Maintenant, s'agissant justement côté foot, hein, côté terrain, effectivement, il y a un mano à mano qui est en train de s'engager là, qui s'engage même d'ores et déjà, effectivement.
Ça fait un moment.
Ça va valoir son pesant de cacahuètes. Hein.
Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est un championnat très attractif. Hein. Le championnat turc ouvert, avec beaucoup de buts, on le voit généralement. Et franchement, là, on voit Fenerbahçe et Galatasaray qui se donnent une guerre vraiment très intensive. Et je pense que jusqu'au bout, ça tiendra. Quoi.
Beaucoup, beaucoup de joueurs de Ligue 1 hein, qui sont du côté de la Turquie.
Oui, aussi.
Cela dit, hein. Oula, c'est affolant. Quand on regarde les différentes équipes, hein, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, j'en passe comme ça. Mais il y en a pas mal des joueurs qui évoluent en Ligue 1 qui se retrouvent aujourd'hui du côté de la Turquie. 30 secondes chrono pour toi, Eladj. C'est parti.
Moi, je pense que j'aurais besoin d'un peu plus de 30 secondes aujourd'hui, mais mon fait marquant, moi, c'est le fait que la FFF a refusé encore une fois de plus et une année de plus le fait de ne pas accorder une pause pour la coupure du jeûne, que ce soit pour ceux qui font le carême ou ceux qui font le ramadan. Moi, je pense qu'ils devront prendre exemple sur d'autres championnats, que ça se fait même en Angleterre. Hein. Nous, on interdit ce genre de choses. On voit qu'en Angleterre, par exemple, à Arsenal, il n'y a pas longtemps, il y a Mohamed El Neni qui a inaugurer une salle de prière avec Arsenal. Mmh. Donc moi je pense qu'à partir du moment où on se dit le pays des droits de l'homme et liberté, égalité, fraternité, pour moi vraiment liberté, égalité, fraternité, c'est vraiment respecter chacun et tout le monde. Je pense qu'une pause, une petite pause fraîcheur de 2 minutes ne va en... Bah, on voit bien, il y a des coéquipiers, ça ne va déranger personne, on voit bien, il y a des coéquipiers qui ne sont même pas de que ça soit chrétien ou musulman ou quoi que ce soit, ils ne sont pas de tout ça, mais... Ils vont quand même faire semblant de simuler une blessure le temps pour que des autres coéquipiers qui ne sont pas dans leur équipe ou qui sont dans leur équipe puissent rompre leur jeûne. Et c'est assez dommage de voir ce type de comportement, en tout cas dans cette ligue-là, où moi je pense qu'on a des rêves de grands et on doit se comporter comme des grands. Et moi je pense que c'est encore regrettable de voir que la FFF bloque ce genre de petite pause.
Ça, c'est du 3 minutes chrono là aujourd'hui hein, ouais. Avec elle.
Je l'avais dit hein, que ça allait un peu plus.
Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Alexandre? Et puis on va notifier la présence de notre ami Shekenza. Salut Shekenza, ça va?
Oui, salut, je vais bien.
Ouais. Réaction d'Alexandre ouais. S'agissant justement de la rupture du jeûne qui n'a pas été accordée.
Du carême aussi, hein. Je rappelle qu'on est en période de carême
oui,
aussi.
Oui, par la Fédération française de football et la Ligue.
Pour moi, c'est soit tout ou rien. Donc c'est soit on interdit tout, soit on interdit rien. Et là, en l'occurrence, en fait, Le problème, c'est que si on fait une pause, ça veut dire que... Parce que le gros, c'est un sujet qui est beaucoup plus qui sort du foot. Le truc, c'est tout ce qui est laïcité, etc. Et t'as le point de vue des gens qui sont contre, ce que je peux entendre, qui vont dire que tout ce qui est religieux, ça doit être à l'extérieur du terrain et du stade. Donc que ce soit chrétien, musulman, juif, tout ce que vous voulez, ça doit être à l'extérieur du stade. Et t'as ceux qui vont dire, oui, mais on est pour le vivre ensemble et on tolère tout. Et donc, du coup, à ce moment-là, il faut autoriser les coupures. Et après, je tiens juste aussi à préciser qu'en Ligue 1, les matchs concernés par la rupture du jeûne, il n'y en a pas énormément. C'est pour ça que...
Cette année, il n'y en a pas énormément.
Ouais,
je me souviens que l'année dernière, il y en avait beaucoup. Cette année, oui,
cette
ça
année,
tombe vers 20h, il n'y a pas beaucoup de matchs.
Et j'appuie aussi sur le fait que... Parce que moi, à titre personnel, moi, ça ne me dérange pas du tout, je m'en fous. Et que les musulmans coupent le jeûne, c'est très très bien. Ça ne me dérange absolument pas. Mais... en fait ça le fait quasiment déjà, en fait comme tu l'as dit, les joueurs ils se mettent en pause, il y a personne qui va les empêcher de boire ou de prendre une date.
Oui, c'est juste que excuse-moi, mais ils sont obligés de simuler une blessure ou quoi qu'est-ce pour qu'on interrompe le jeu.
Non, mais on a bien entendu ton propos, tu as été très clair, tu as même 3 minutes même pour parler de ça, tu as été très très clair. Shekenza, ton avis justement par rapport à la préoccupation de Eladj?
Mon avis vraiment c'est c'est que c'est pas maintenant. Ce problème persiste. Ça fait pas mal d'années que des joueurs réclament au minimum aux 5 minutes pour un plus jeune, c'est pas plus. Je crois qu'on devait un peu, on devait prendre l'exemple un peu sur nos voisins et tout ça. Il y a pas mal de pays qui le font. L'Angleterre, qui est un pays à forte culture, mais qui arrive quand même.
Mais Alexandre a soulevé un point qui est très important. Il a parlé de la laïcité, justement.
Oui, oui, oui.
Donc la laïcité, vue du point de vue français, est très, très, très différente de ce qui se fait ailleurs, notamment en Angleterre, puisque tu prends l'exemple de l'Angleterre, de la Première Ligue.
Mais concernant la France, on nous parle de laïcité, mais il n'y a pas de laïcité. Hein, parce que là, le problème c'est pas qu'au niveau du football. Le problème, c'est. Ça va au-delà du football parce que le problème, c'est au niveau des politiques et tout ça, qu'on a un pseudo-problème avec l'islam et qui trouve que peut-être que l'islam...
Pourtant, ça va plus loin. Quoi. Ouais, pourtant, ça va au-delà même du foot.
Oui, moi, je pense que ça va au-delà du foot parce que le problème, lui, est là.
On a bien entendu ton propos. Ça va au-delà du foot. On va résumer ça comme ça. Et puis, comme tu l'as dit encore une fois, ce n'est pas la première fois. Chaque année, dès lors qu'on observe la période du Ramadan, effectivement, c'est une question qui revient assez régulièrement. Après aussi, peut-être que la solution a plus ou moins été trouvée. Hein. Il y a de moins en moins de matchs qui se déroulent justement à l'heure de la rupture du jeûne. En ce moment, c'est autour de 19h. Donc, ceci explique aussi peut-être tout ça. Il y a aussi un autre sujet dans le sujet. Hein. C'est les joueurs justement qui sont parfois mis sur la touche par l'entraîneur prétexte que ces joueurs-là font le jeûne et qu'ils ne sont pas forcément aptes physiquement à pouvoir disputer les matchs. Donc, c'est des sujets qui reviennent souvent. Il va falloir qu'à un moment ou un autre, on s'arrête là-dessus pour définitivement prendre une décision de façon collégiale et unanime qui satisfasse un peu toutes les parties. 30 secondes chrono, on est toujours dans cette chronique, cette fois-ci avec toi, Cheikh Enza. C'est parti.
Mon 30 secondes chrono, c'est la victoire d'United à Liverpool avec un match vraiment tellement fascinant, avec le retour gagnant d'Amad Diallo qui revient de pas mal de blessures et tout ça, et qui a été décisif dans ce match, je peux dire à la dernière minute, qui donne la victoire à son équipe.
Amad Diallo, effectivement, qui revient bien, avec une grosse bêtise encore une fois à la fin, il a retiré son maillot. Ce qui lui a valu encore un deuxième jaune, donc synonyme de rouge, ce qui fait qu'il ne pourra pas disputer. C'est la demi-finale, hein, c'est ça ?
Oui, c'est la demi-finale.
La demi-finale.
Contre Coventry.
Sachant qu'en championnat, il ne joue pas beaucoup, donc c'était une occasion pour lui de s'illustrer dans cette coupe. Malheureusement, il a fait la même bêtise d'ailleurs qu'a fait
Oumar
Diakité durant la CAN. Comme quoi, on n'apprend pas bien les leçons côté Côte d'Ivoire. Une réaction sur le match d'hier, Eladj ?
Sur le match
Liverpool,
on a un groupe, hein, franchement, moi je vous ai envoyé un message à la mi-temps, j'étais vraiment, c'était un régal total, hein, franchement, c'était un régal total à la mi-temps, il y avait 2-1 pour Liverpool, avec des buts refusés, avec de l'intensité, ça partait d'un but ou un autre, franchement, les matchs comme ça, c'est ce qu'on aime, hein, c'est ce qu'on aime, on a vu jusqu'à la dernière minute, ça joue, pendant les prolongations, il y a encore d'autres buts, et franchement... un plaisir, je ne sais même pas comment le déterminer, c'est une référence pour ceux qui n'ont pas vu le match, franchement ils ont raté.
On va demander ça à Stéphane dans quelques instants. Alexandre, ton sentiment sur le match d'hier, justement.
Sur le match d'hier, je cherchais justement
entre
le nom,
Manchester United.
Et c'est le petit Kobbie Mainoo qui a fait un match incroyable. Et lui, on va entendre parler de lui pendant longtemps, je pense, parce que le match qu'il a fait hier face à... Parce que c'est en 2005. Ouais, c'est en 2005.
Ouais, je crois qu'il a 20 ans, c'est ça ?
Ouais, 18 ans.
18 ans ? Ouais, 18 ans.
Mais non, ouais. Ah non, mais c'est pas la première fois qu'on le voit à l'œuvre.
Mais c'est là, c'est le match où il m'a vraiment impressionné. Parce que faire ça contre Liverpool à un match, comme tu l'as dit, avec une telle intensité, c'est incroyable.
Non, il est lourd. Hein.
Et comme a dit Cheikh Enza, 4-3, match incroyable, un match à l'anglaise, FA Cup. Manchester United qui se qualifie, c'était une grosse après-midi, quoi. C'était sympa.
Avec Kobbie Mainoo, comme il a dit tout à l'heure, avec un gros volume de jeu, on espère vraiment qu'il va continuer sur cette lancée.
Toi, tu ne l'avais pas cité, tu es parti tout de suite vers ton compatriote ivoirien
parce que c'est lui déjà qui donne la victoire aux siens, après tout ce qu'il a traversé, c'est normal. Vu que ces derniers temps, il a demandé à partir aussi, parce qu'il jouait peu, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu.
Mais il est jeune aussi,
Oui, certes, il est jeune, mais Amad Diallo, c'est quelqu'un aussi qui a prouvé, parce que là, avant de venir à Manchester, il était déjà bien installé au niveau de l'Atlanta, même si c'est son club, un peu formateur, mais il a prouvé des grandes choses. Tu t'imagines qu'à l'époque, c'est un gros chéquier qui lui permet de rejoindre l'Angleterre, donc il demande du temps de jeu, il demande aussi de s'affirmer comme tout joueur.
N'oublie pas de citer Eric Ten Hag, que tu as beaucoup critiqué depuis le début de saison, qui a fait un coaching payant parce qu'il l'a fait rentrer. Et franchement, à un moment vraiment critique du match, vraiment faux. Et Eric Ten Hag, durant tout le match, même, il fait rentrer Anthony qui n'apporte jamais rien et qui rentre, qui marque le 2-2. Et après, il fait rentrer Amad Diallo. Franchement, Eric Ten Hag, il a fait un très, très gros coaching. Et souligne-le parce que tu l'as beaucoup critiqué.
Ouais, vraiment, oui, mais c'est normal parce que ouais, il faut critiquer quand ça va pas aussi. Il faut reconnaître aussi le mérite de l'entraîneur. En tout cas, sur ce match-là, vraiment, j'ai très peu de choses à dire. J'ai été satisfait du contenu.
Merci les amis. À présent, on va basculer tout de suite et maintenant dans les coupes européennes. Ah les amis, hein, les quarts de finale arrivent. Ligue des Champions, Europa League, Conference League. Et puis, pour une fois n'est pas coutume, hein, on a trois représentants dans ces trois coupes. Hein, le Paris Saint-Germain, notamment, va rencontrer le FC Barcelone d'Alex. Et puis, comment dire ça, Marseille va rencontrer justement c'est le Benfica. Hein, c'est bien ça, les amis.
Oui,
hein,
le Benfica, Lisbonne.
Benfica. Et puis, Aston Villa, justement, sera à la face à nos amis de Lille. Alors, est-ce qu'on peut dire que le PSG est favori, les amis, face au FC Barcelone? J'ai envie de commencer par Chakenza.
Ouais, moi je pense que le PSG a toutes les cartes parce que cette équipe barcelonaise, c'est un jeu un peu, on peut dire, un peu décousu, fébrile. Et défensivement, c'est pas fort, c'est un peu fébrile. Même si les deux derniers matchs, oui, ils avaient une bonne assise défensive. Le match face au Napoli, le match face à l'Atlético, mais dans l'ensemble, vraiment, Barcelone sont prenables avec les points de vitesse que le PSG a, surtout un Kylian Mbappé dans une grande forme. Encore hier, il nous met encore un triplé. Je crois que
Barcelone a gagné 3-0 hier aussi.
Oui, je sais, mais défensivement,
non,
c'est
mais
faible.
Je te dis ça, quoi.
Oui, je sais, mais défensivement, c'est faible. Moi, je me base pas sur les deux derniers matchs. Certes, ils ont retrouvé un peu de solidité défensive, mais c'est pas le grand Barcelone. Et avec quelques années, je pense que le PSG n'a qu'à jouer. Et je crois que cette année, le PSG, ils peuvent même aller en finale si vraiment ils abordent les matchs comme ils l'ont fait avec la Real Sociedad, c'est-à-dire dès l'entame de match, du sérieux et tout ça, de l'enthousiasme et des joueurs vraiment qui se battent les uns pour les autres. Avec ce collectif-là, je pense que le PSG a toutes les cartes et pourquoi pas d'aller chercher notre finale.
Franchement, j'ajoute juste quelque chose. Cheikh Kenza, franchement, j'aime beaucoup ton analyse aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si c'est le fait que tu as rasé ta barbe, mais aujourd'hui, franchement, numéro 10 aujourd'hui. Hein. J'aime
Oula
beaucoup, en tout cas.
Les
beaucoup.
Balles perdues.
Non, du tout, mais j'aime beaucoup.
Je me ramène toujours d'un pic.
Il faut le dire.
Qui aime bien, châtie bien. Je comprends Eladj même. Je comprends bien.
Tout ça, c'est bien beau, mon cher Eladj. Mais est-ce que le Paris Saint-Germain est favori face
bien
au
sûr,
FC Barcelone
bien évidemment,
Non, mais sérieusement.
Oui, mais sérieusement.
Tu
bien évidemment, mais bien sûr que je le pense. Mais t'es sérieux, Malik?
Non, mais moi, je te demande. Si tu me dis que le PSG est favori, j'attends tes arguments.
Le
là.
PSG est favori, que ça soit sur le papier, que ça soit sur la forme, que ça soit sur tous les plans en fait, sur tous les aspects, qu'on voit à travers les deux équipes. Le PSG est largement favori face au FC Barcelone. Il n'y a même pas de débat dessus. Et je pense que ceux qui diront le contraire seront fous. Il y a même les supporters du Barça savent au fond de eux que le Barça ne sont pas favoris face au PSG. Contrairement à ce que Lewandowski veut faire croire en disant « Je suis persuadé qu'on va passer, qu'on va aller en demi-finale, etc. » qui se concentre déjà sur sa saison, qui commence à mettre des buts, qui commence à être plus décisif. Et ensuite, on verra.
Il revient bien, là.
D'accord, mais parce que beaucoup de gens, comme on a dit, le PSG a fait un seul poste où on a pu voir, ils disent voilà, on a vu, le PSG contre Barcelone, rendez-vous en février, etc. Point barre. Le Barça, ils ont tweeté, ils ont fait que ça. La remontada, nanani, nanana. Ils oublient la dernière confrontation qui s'est soldée par un 4-1 avec un triplé au Camp Nou, de Kylian Mbappé. Ouais. Et le match retour, il y a eu 1-1. Donc, ils oublient carrément ce truc-là.
Mais cette fois-ci, le match retour se joue là-bas. Hein.
Mais il n'y a pas de souci. Mais on est plus proche de ça. T'as vu, le match aller, il s'était passé là-bas, non? 4-1. Ça, on repart là-bas, on refait la même chose. Kylian Mbappé, il repart en plus juste après avant d'aller au Real. Mais il met un triplé. Mais les gars, faut arrêter sérieusement.
Si un truc que j'aimerais bien dire, Kylian Mbappé, il aime bien jouer contre Barcelone. On sent vraiment qu'il les aime pas et tout ça.
C'est
donc,
qui un roro fort.
Ouais, quand
des jeunes
Barcelone.
Comme ça qui vont arrêter Kylian à gauche et qui vont arrêter Dembélé à droite. Faut arrêter avec un retour de Nuno Mendes qui gagnant qui
question,
marque hier.
La question,
non,
elle est simple, elle est claire.
Très claire ce que j'ai.
Est-ce que le PSG est favori? T'as dit oui.
Oui, j'ai dit oui.
Chakenza a dit oui. Alex.
Déjà, là, on voit toute l'arrogance des Parisiens en 5 minutes. Je tiens juste à dire que Dembélé, c'est un but cette saison. Lewandowski, ouais. C'est 20 buts.
Oui.
Ensuite, je commencerai mon propos en disant que j'ai un gros problème avec la communauté du Barça. C'est que ce soit les médias espagnols sur les réseaux, ou même parfois l'entraîneur Xavi, c'est qu'on se voit trop beau et on s'enflamme beaucoup trop vite. Et faut pas mentir, quand on a vu le tirage au sort Barça-Paris, tout le monde s'est dit c'est un bon tirage pour le Paris Saint-Germain. Donc dire que le FC Barcelone est favori, ce serait mentir. Maintenant, le match, il est dans deux semaines, deux, trois semaines après la trêve. On revient bien. Enfin, le FC Barcelone revient bien. Mais sur le papier, le Paris Saint-Germain est clairement favori. Et en plus de ça, il y a un Kylian Mbappé qui a une seule envie, c'est de prendre la coupe aux grandes oreilles avec Paris. Et qui est extraordinaire en ce moment. Quadruplé hier, d'ailleurs. Donc,
Triplé.
Donc, ce serait mentir de dire que le FC Barcelone est favori.
Ça m'étonne, hein, mais bon. Mon cher Philippe, oui, comment ça va?
Moi, ça va. Ça va, ça va.
Alors, justement,
moi
Philippe,
aussi, je vois le PSG favori contre le,
c'était ça la question.
Contre le Barça, voilà.
Ah, toi aussi, tu vois le PSG favori?
Oui. Ah, pas 80-20, hein, mais voilà. Mais voilà, oui, 55-45, par exemple.
Fait, moi j'ai une question pour vous, les amis.
Non, parce que, je voulais dire, tout le monde parle du syndrome de 2017, mais il ne reste plus qu'un joueur, c'est Marquinhos. Et en plus, depuis, le Paris Saint-Germain a rejoué Barcelone, puisqu'ils les ont éliminés en 8e de finale de Ligue des Champions en 2021. Donc le syndrome de Barcelone, il est loin maintenant, hein, le syndrome de ce match raté contre le Barça au match retour. Donc voilà, donc c'est vrai que sur le, je pense que excepté le Real et Manchester, Paris peut après rivaliser avec n'importe quelle autre équipe.
Rivaliser, j'aime bien ce mot, je préfère rivaliser, mais parlant de favori, moi je pense que c'est du kiff-kiff, c'est du 50-50.
Oui, moi 55-55,
c'est du 50-50,
oui,
parce que quand je regarde, à vous entendre parler, on a l'impression que Barcelone est le 11e de la Liga.
Ah non,
il faut arrêter, les amis.
C'est juste que non, mais
maintenant le FC Barcelone est deuxième de son championnat.
Personne n'a dit ça. Mais je suis sûr
à quoi, à 8, non, de mémoire, je pense à 8 points. C'est même du Real Madrid, seulement à 8 points.
7-8 ans.
Oui, certes, c'est moins.
C'est une équipe qui a eu quand même.
C'est moins flamboyant. Attends. Moi, j'ai un truc, c'est que c'est moins flamboyant, c'est sûr.
C'est plus le même style de jeu.
Mais il n'empêche quand même que cette équipe tient quand même le haut du championnat espagnol. En étant deuxième, en plus, hein, les amis.
Malik, ils viennent de passer deuxième. Excuse-moi. Ils viennent de passer deuxième. Il n'y a pas longtemps.
Non, mais je vais te dire, quand on appartient au top 8 européen, c'est au mois d'avril-mai qu'il faut être en forme.
D'accord.
Si on part du principe que les poules, tu sortiras quand même certaines fois avec des difficultés, mais c'est autour d'avril-mai qu'il faut être véritablement en forme. Et j'ai l'impression que, justement, cette équipe de Barcelone est en train de monter en puissance.
C'est possible.
Au bon moment. Donc, je vais dire vigilance.
Et Malik, le seul danger sur ce match, c'est le Paris Saint-Germain lui-même. Voilà. Comme tous les matchs, souvent de 8e ou de quart de finale, hein, où Paris parfois s'est abordé, y compris.
Et puis il y a un autre truc, c'est que moi, quand je regarde l'équipe du Paris Saint-Germain jouer, et même cette équipe de Barcelone, Barcelone aujourd'hui a un collectif. Barcelone aujourd'hui peut gagner sans Lewandowski. Je ne sais pas si le Paris Saint-Germain peut gagner un grand match sans Mbappé.
Non, à cette période, c'est pas possible.
Ça peut arriver.
Franchement,
ça peut arriver. Mbappé peut avoir un pépin. Ça peut arriver. Donc, est-ce que sans Mbappé, le Paris Saint-Germain est capable de se qualifier?
Malik, est-ce que tu regardes jouer le FC Barcelone?
J'ai vu le FC Barcelone jouer régulièrement cette année.
D'accord, tu peux dire qu'ils ont un meilleur jeu que le PSG?
Non, je ne te parle pas de jeu. Je ne te parle pas de pouvoir gagner, voire se qualifier.
Malik, c'est une question. Est-ce que tu peux répondre à ma
question? Mais hier, le contenu, déjà, ils sont en progrès. Ils sont en progrès. C'est ce que je te disais.
C'est pas question de progrès. Moi, je te dis,
le truc, c'est d'être en forme au bon moment.
Dans le jeu, ils ne sont pas meilleurs, ni maintenant, ni avant.
Ils sont beaucoup mieux là.
Ils sont mieux qu'avant, mais ils ne sont pas meilleurs que le PSG, que ça soit avant ou après. Ça ne change strictement rien à la situation.
Oui, mais le PSG joue un championnat qui est beaucoup plus en deçà que le championnat de la Liga.
D'accord, mais maintenant cette équipe du PSG joue en Liga, je suis sûr à 100% qu'elle finit devant le FC Barcelone. J'ai même pas un seul doute là-dessus. Franchement, vous pouvez me mettre. Maintenant, vous pouvez commencer à me dire oui, je suis beaucoup arrogant, prétentieux, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci.
Non, mais ça, on a l'habitude.
Vous savez bien, le premier à se mouiller.
C'est pas nouveau,
ici,
ça.
C'est moi. Et je me mouille pas pour rien. Et vous le voyez. Et ça aussi, il faut le dire. Non, mais ça aussi, il faut le dire.
Non, mais t'as le droit, mais c'est pas nouveau.
Oui, je ne me mouille pas pour rien. Voilà, j'ai eu beaucoup raison et autour, tout le monde me critiquait. Tout le monde, en tout cas, n'avait pas le même point de vue que moi.
Sur
plein de choses, Malik. Il y a les podcasts, ils sont enregistrés, on peut les écouter. Plein de fois, je me mouille sur pas mal de sujets, sur pas mal de clubs.
À part l'Olympique Lyonnais, je vois pas tout.
Non, il y en a eu beaucoup. Hein. Franchement, Villarreal, Bayern. Il y en a eu beaucoup, mais il y en a eu.
Bon, revenons
merci,
sur le.
Malik.
Ouais, j'ai l'abonnement. Voilà,
merci.
Revenons sur Malik. Non, mais toi, tu t'es trop adouci avec Eladji là. Tu t'es trop adouci.
Non, je suis pas adouci.
Je comprends plus. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui t'a donné à manger.
Non,
il y a un truc qui va plus là.
Non, en fait, je me suis
pas adouci, mais concernant son analyse, je pense que le jeu du Barça est totalement décousu. Parce que quand on regarde les derniers matchs du Barça, il gagne qu'avec des transitions rapides. C'est-à-dire vraiment,
non,
c'est...
Non, bien sûr, mais le PSG le fait également,
Quand tu regardes les derniers matchs du Barça...
Hier, face à Montpellier, il y a eu beaucoup de transitions.
Non, mais quand tu regardes... quand tu regardes les derniers matchs du Barça, je peux...
Pourquoi remettre en question à chaque fois les victoires des autres?
Là, je parle pas du match de l'Atlético, je parle des derniers matchs du Barça. Les derniers matchs du Barça, c'est des transitions rapides. Quand tu regardes le plus souvent, voilà, c'est des ailiers qui font la différence avec des transitions rapides. C'est pas ce Barça vraiment qui avait le monopole du ballon. C'est pas ce Barça qui pouvait faire courir.
Ça fait des années, ça.
Non, mais ça... 7, ça fait des années, mais c'est ce Barça-là qui a créé des problèmes au PSG, à la remontada, parce qu'on avait vu un bloc très haut, une équipe vraiment qui arrivait à dominer dans tous les compartiments. Et là, c'est plus pareil. Aujourd'hui, on a un PSG vraiment, même qui est malade, même quand le PSG va mal, le PSG a les ressources. Et ce PSG-là, je pense qu'ils ont du mental. Et parce que là, moi, j'en ai...
Là, tu parles de la Ligue 1, hein.
Ouais, quoi qu'il arrive, même en Ligue des Champions, ils l'ont démontré.
Non, mais tu te rends compte que le PSG vient de la ligne 3 match nul.
Ben oui, c'est normal. Hein,
juste avant la victoire d'hier, t'es au courant de ça au moins.
Oui, mais c'est au football.
D'accord. Ils viennent de la lignée des 3 matchs, sans victoire, comme tu dis, sur un championnat où ils ont 12 points, 12 ou 13 points d'avance.
Mais là n'est pas la question.
Mais si, la question, elle est là. Parce que tu dis qu'en championnat, laisse-moi t'expliquer. Luis Enrique, on le voit, il change son 11 de départ à chaque fois. Il est en train de tester. Il s'entraîne en Ligue 1. Franchement, excusez-moi du peu, mais il s'entraîne en Ligue 1. Il teste des choses en Ligue 1 parce que, et même malgré ça, il ne perd pas. Et il teste des choses en Ligue 1 parce qu'il peut se le permettre, parce que les équipes en dessous sont trop faibles. C'est pour ça la vraie raison. Si on serait à 1-2 points de n'importe quelle équipe, mais je suis sûr que les 3 derniers matchs, on les gagne. Et il ne met pas Kylian Mbappé sur le banc. Et les matchs, on les gagne. Ni Zaïre Emery, ni Ousmane Dembélé, il ne fait pas de turn-up. Faut dire la chose.
Juste avant de retrouver notre ami Stéphane.
France, il a mis Zaïre Emery arrière droit.
Ouais. Il est en train de tester, il a toujours
tendance à expérimenter justement.
Et puis Hernandez,
des nouveaux postes
gaucher,
pour les joueurs.
Axe droit, voilà.
Et quand on regarde bien Luis Enrique, cette compétition, il a gagné. Il a gagné avec une équipe de Barcelone et tout. Donc je crois vraiment que El Coto, c'est un peu expérience. Et quand on regarde bien Xavi, c'est quelqu'un déjà en Coupe d'Europe, je crois bien, qui n'a jamais même passé le cap des quarts en tant qu'entraîneur déjà. Ça...
Mais il est entraîneur depuis peu.
Oui, certes, il est entraîneur depuis peu.
Faut pas exagérer non
plus. Certes, on peut le dire, mais la première année de Zidane, il part remporter la Ligue des Champions.
Déjà, il arrive en quart de finale.
Il arrive dans un contexte qui est
avec mais la première année de Zidane, avec une équipe qui n'est pas.
Mais ça n'a rien à voir.
Il a un meilleur coefficient quand même de victoire. Enfin, Koeman a un meilleur coefficient de victoire que lui.
Sur
le même nombre de matchs.
Donc là, je ne parlais pas de
jouer avec Aubameyang.
Les amis, on va prendre l'avis de notre ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport. Bonsoir, Stéphane.
Bonsoir les amis, ça va bien ?
Ça va super bien, et toi-même ?
Ça va, c'est toi Stéphane.
Ouais, ça va. Bon, on s'est régalé, on a vu du foot, on s'est régalé ce week-end, donc tout va bien.
Ben justement, on est dans Au bout du foot et tu tombes bien parce qu'on était en train de parler justement des Coupes européennes. On s'est arrêté sur la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a tiré le FC Barcelone, t'es pas loin de l'information. Alors on s'est posé la question de savoir si le PSG est favori face au FC Barcelone.
Ouais, moi, je ne pense pas que le PSG est favori. Je pense que c'est du 50-50. Si le match retour, je suis honnête, quoi, moi, si le match retour s'était déroulé au Parc des Princes, j'aurais dit le PSG est très, très légèrement favori. Là, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que c'est vraiment du 50-50. Donc, c'est vraiment du 50-50. C'est un peu de deux équipes où, si on vous avait posé la question il y a 3 mois ou 4 mois, on aurait tous répondu non. De toute façon, c'est ni le Barça ni le PSG ne gagnera la Ligue des Champions cette année. Voilà, il se trouve qu'il y a un tirage avec le match entre le Real et Manchester et puis la suite derrière qui fait que il y a une ouverture pour ces équipes-là, hein, pour Barcelone, Paris, comme l'Atlético de Madrid et Dortmund. Il y a ces quatre équipes-là ont les possibilités d'aller au bout, selon comment ils vont se sentir. Si on a Kylian Mbappé, comme on a depuis quelques matchs, Paris va faire la différence. Maintenant,
moi je comprends pas. J'ai l'impression que tout le monde est dithyrambique vis-à-vis de Kylian Mbappé, comme si on le découvrait. Moi, je ne comprends pas. Kylian Mbappé, il n'était pas performant parce que tout simplement, l'entraîneur avait décidé de le mettre dans l'attaque de façon axiale. C'est tout. Aujourd'hui, il retrouve davantage son poste. Ben, il retrouve ses sensations. C'est aussi simple que ça. Mais j'ai l'impression que tout le monde découvre Kylian Mbappé alors qu'on sait très bien de quoi il est capable, ce garçon, dès lors qu'on le met à son poste.
Ouais, mais là, c'est simple. Je veux dire, c'est un peu comme le problème en étant lucide de la bouteille à moitié vide à la bouteille à moitié pleine, quoi. Je veux dire, c'est facile de dire ça pour ceux qui sont pas qui apprécient pas particulièrement l'entraîneur, puis ceux qui l'apprécient vont peut-être aller un peu dans l'autre sens en disant que moi, mon sentiment à moi, c'est apprécié ou pas sans rien avoir, c'est que Mbappé il avait besoin de retrouver un peu de fraîcheur, de retrouver un peu d'énergie, de retrouver aussi un peu d'envie après sa décision de quitter le club, de se remettre aussi dans le droit chemin et tout. Je dis pas du tout que ce qu'a fait j'ai jamais été pour ce qu'a fait Luis Enrique, mais je pense que en tout cas là en ce moment il est simplement l'année de Galtier, c'était l'année dernière, au moment, à l'heure des huitièmes de finale, il était à moitié blessé, il a joué, je crois il rentrait un quart d'heure au match aller, revenait de blessure, donc c'est ça aussi que je dis, quoi. C'est-à-dire qu'il est en pleine possession de ses moyens, il n'a rien eu, il n'a pas eu d'absence, il a eu du repos, il n'a pas non plus trop joué, si on veut, on peut même rajouter ça, et pour l'instant, maintenant, il peut se blesser avec l'équipe de France, il peut se fatiguer, il peut se passer plein de choses d'ici là, mais en tout cas, en ce moment, il a toujours marqué des buts, il a toujours été bon, mais il a quand même tout le temps eu aussi, comme tout le monde, des hauts et des bas dans la saison. Je trouve qu'actuellement, Kylian Mbappé est dans un haut, je pense qu'hier, il a fait très probablement, avec le match peut-être de la Real Sociedad, son meilleur match de la saison, quoi. Mmh. Donc c'est quand même intéressant de voir ça, que ça soit la raison ou ce qu'il a été reposé, ou parce qu'il est mis à son bon poste, ou parce que ceci, cela et tout, à la limite, bon, peu importe. En tout cas, la réponse, c'est qu'il a fait un super match, peut-être le meilleur de la saison, et qu'on est à 15 jours du match de... Non, pas 15 jours, on est à 3 semaines du match aller, quoi.
Alex ?
Mais justement, le match aller, le Parc des Princes, le retour, il est à Barcelone, mais il n'est pas au Camp Nou, il est à Montjuïc. Et ça, c'est une grosse, grosse, grosse différence. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer ce qui s'est passé en 2017, ni en 2021, même si le Paris Saint-Germain avait gagné. C'est que là, c'est à Montjuïc, c'est un stade qui est vraiment différent à l'écart de la ville, où il y aura beaucoup moins de monde. Donc je ne dis pas que ça n'a pas joué du tout, mais c'est vraiment différent et c'est à prendre en compte.
Philippe ?
Oui, et moi je voulais quand même dire que contrairement à ce qu'on croit, quand on regarde les matchs et les qualifications, il y a la moitié des qualifications qui sont acquises après le match aller. Si vous regardez les matchs de Ligue des Champions et ne serait-ce que les victoires françaises, les qualifications françaises, les trois qualifications, elles ont été surtout acquises après le match aller. Contrairement à ce qu'on pense, jouer les matchs retour à domicile, c'est pas toujours une certitude. Voilà.
Surtout depuis que la règle. Ouais.
Ah oui. Et quand on regarde et regardez les matchs de Ligue des Champions, les équipes qui sont qualifiées, eh ben la moitié, elles ont surtout été chercher leur match de qualification, donc au match aller.
Oui, mais ça veut dire que l'autre moitié, du coup, c'était au match retour.
Oui, non, mais contrairement à ce qu'on croit, c'est pas 70-30, quoi. C'est pas un avantage de toujours jouer les matchs retour, à domicile.
Chagunza ?
Oui, s'il y a un truc que je voulais parler, c'est à propos de Stéphane. Stéphane, déjà, vous avez parlé de Kylian Mbappé et tout ça, mais Kylian Mbappé, c'est un joueur qui a été tellement décisif dans les matchs très, très importants. Hormis la finale du Final Four, notre Kylian Mbappé, à chaque fois qu'il rencontrait une grande équipe, soit c'est un but, soit c'est quelqu'un qui était très influent dans le jeu, soit ça dépasse décisif, il l'a toujours prouvé. Et moi, concernant Kylian Mbappé, oui, même Kylian Mbappé en dessous, quand même, c'est meilleur que pas mal d'attaquants aujourd'hui. Même Kylian Mbappé en dessous, ça peut te mettre un but, ça peut te sortir une action de génie, comme tout autre attaquant, c'est normal. S'il n'est pas dans les meilleures conditions pour donner le meilleur de lui, c'est normal que voilà, on n'ait pas le meilleur de Kylian Mbappé. Donc ça aussi, ça va dépendre aussi du staff et tout ça. Il faudrait que le joueur soit dans les meilleures conditions. Et chaque fois qu'il a été dans les meilleures conditions, il l'a prouvé. Et c'est pas maintenant qu'il le prouve. Je pense qu'en ce moment, on peut rien dire sur la saison de Kylian Mbappé, hormis quelques petits soubresauts en interne avec Luis Enrique. Ça, c'est des choses qui se sont réglées. Après, l'entraîneur, il a vu qu'on ne peut pas s'en passer d'un Kylian Mbappé. Ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied.
Ouais, non, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je ne veux pas aller dans les polémiques, les histoires et tout. Le seul truc que je constate, moi, Simplement, c'est qu'aujourd'hui, hier pour précisément, il a fait pour moi, avec peut-être le match retour à la Real, il a fait son meilleur match de la saison, le meilleur match que j'ai vu de Mbappé de la saison. Et je pense, il y en a lointain où il a été très très fort, mais je dirais peut-être même aussi équipe de France comprise, quoi. Donc je me dis que c'est, mais même on enlève toutes les polémiques de Luis Enrique, qu'il arrive en forme au bon moment, quoi. Je veux dire, donc je pense que c'est intéressant, c'est quelque chose qui est intéressant quand t'as le mec, un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde, quand tu penses qu'il arrive en forme, bah c'est mieux que jouer 10 minutes ou 20 minutes contre le Bayern l'année dernière en retour et faire le match à l'aller et faire le match retour après avoir été blessé pendant assez longtemps. C'est beaucoup mieux que tout ça. C'est tout à ton meilleur joueur, il est à sa meilleure forme.
Stéphane, justement, étant donné qu'on est sur Mbappé, on ne va pas se cacher, c'est le fer de lance de cette équipe, voire même dans un autre cas de l'équipe nationale de France. Est-ce que tu penses qu'un PSG sans Kylian Mbappé peut se qualifier, parce que ça peut arriver?
Ah oui.
Face au FC Barcelone.
Mais je pense, je vais dire un truc qui va.
Non, je te pose la question. Excuse-moi, je te pose la question parce que je me dis que un FC Barcelone sans Lewandowski a plus de chances de se qualifier qu'un PSG sans Mbappé. Est-ce que tu penses la même chose que moi?
Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, clairement. Moi, j'ai toujours dit ça. Le Paris Saint-Germain tel qu'il est, tel qu'il tourne actuellement. On voit bien que ça soit, on peut en penser ce qu'on veut, mais que Colomoigny, Ramos et Dembélé, ils ont du mal à marquer des buts quand même. Et donc c'est sûr qu'il faut marquer des buts. Donc aujourd'hui, dans le, ce qui est différent d'anticiper sur une saison prochaine, où tu penses que l'équipe va être peut-être équilibrée différemment avec d'autres choses qui vont permettre justement peut-être à ces joueurs-là de passer un palier. Maintenant, effectivement, oui, tel que l'équipe est bâtie aujourd'hui, tu te dis que sans Kylian Mbappé, ça va être dur, mais ça va pas non plus être impossible grâce justement au travail fait par Luis Enrique qui accorde quand même du temps de jeu, de la confiance à d'autres joueurs. Ça en défrise beaucoup d'aligner certains joueurs alors qu'on aimerait tous voir plutôt Kylian Mbappé. Et ben grâce
je crois pas, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais c'est pas ça. Je pense tout simplement que c'est le timing suite à l'annonce qui a fait que effectivement, tout joueur a besoin de se reposer. Si tu expliques à Mbappé qu'il doit souffler un peu parce que tu as besoin de lui pour les échéances, notamment d'avril-mai, je pense qu'il comprend aisément les sélections et tout ça. Il comprendra ça aisément. Mais dès lors que tu commences à le mettre sur le banc, tout simplement parce qu'une semaine avant, il a annoncé son retrait, enfin son envie justement de partir à la fin de la saison, c'est à ce moment-là que les polémiques arrivent. Je pense que c'est en termes de communication que Luis Enrique n'a pas du tout assuré. Non, voici pourquoi les polémiques sont arrivées. Ouais, ce n'est pas le fait de voir Kylian Mbappé sur le banc qui fait jaser. C'est la manière dont ça a été concocté.
Comme je vous l'ai déjà dit, je pense que je l'ai déjà dit dans une précédente émission, on l'a écrit et tout dans des articles sur le site. Je veux dire, j'entendais un peu avant que je prenne l'antenne tout à l'heure, je vous entendais parler, je crois que c'est El Hadji qui expliquait un peu ça. Il a 12 points d'avance, il en avait 10 avant, il n'en a plus rien à foutre de la Ligue 1. Regardez, vous regarderez, je vous le dis maintenant, on regardera la composition d'équipe de PSG Clermont-Ferrand qui va se jouer, je crois, 3 jours ou 4 jours avant Barcelone, entre le Classico et Barcelone. Je veux dire, il va y avoir, si ça se trouve, même des joueurs du centre de formation qui vont être le petit qu'on a vu nous hier, là, Mayumu, là, je ne sais pas exactement son nom, il va peut-être être titulaire et débuter le match. Il sait très bien, c'est expérimental.
Stéphane, excuse-moi, mais respecte quand même les joueurs de notre centre de formation, s'il te plaît.
Il a dit de notre.
Oui, mais de notre. C'est de notre. Qu'on le veuille pas. On est parisiens avant tout. Je dis pas qu'on supporte Paris. On est parisiens. On est quand même à la radio Mon Paris FM, Malik.
Bon,
quand même. Voilà. Donc, quand je dis notre centre de formation.
Je suis dans l'exercice de mes fonctions, là.
Oui, exactement. Moi, j'en suis encore un peu plus. Mon Paris FM, c'est exactement ça. Du coup, oui, le jeune s'appelait Mayulu.
Ah, ça, c'est pour ça, parce que j'ai pas retenu son nom, Mayulu. Mais non, moi, je pense que ça va faire saigner. Et puis on va entendre les ah mais alors avant faut plutôt faire une répétition générale, que voulez-vous que et tout, les donneurs de leçons ils ont raison, mais lui il s'en fout. Donc après on va le juger,
on va regarder
dire,
ça.
Tu prends 3-0 à l'aller au Parc, tu perds 3-0 au retour, on dit bah il s'est planté quoi. Maintenant après c'est à 50-50, si ça se joue à très peu de choses et tout, que tu passes ou que tu passes pas, faudra ni faire le fier si tu passes, ni faire le honteux, ni pourrir quelqu'un.
Mais bien sûr que mais excuse-moi Stéphane, mais bien sûr que ça sera la honte si on passe pas face au FC Barcelone. Moi je te dis une seule chose, ça dépend même pas de la manière, je veux
contenu.
Franchement, je n'ai même pas envie de savoir le contenu.
Non mais viens pas nous dire après ici il y avait pas pénalty. C'est l'arbitre et machin. Attention.
Ah non non non, franchement là
les mecs,
il y a la VAR maintenant, même si on sait que c'est pas assez performant encore, je pense que même avec
moi je vous ai dit ici que mon favori
d'arbitrage, mon c'est favori Barcelone, c'est Barcelone vont sortir là.
Je parle même pas d'éliminer le PSG, je te dis que
qui vont gagner
Barcelone gagne la Ligue des Champions cette saison,
donc tu les vois se qualifier face au PSG.
Et là tu t'emballes un peu, tu peux pas, je suis désolé, je suis aussi supporter du Paris, moi je suis supporter du Paris Saint-Germain, j'ai pas honte de le dire, mais je sincèrement tu peux absolument, tant que t'as pas vu les matchs sur le papier, tu peux pas dire, tu me dis on a gagné 2-0 ou enfin 1-0 à l'aller, on a perdu au pénalty au retour à Barcelone. Je veux dire, je dis pas ah, putain la honte, pas du tout quoi. Je veux dire
moi c'est ce que je dirais. Voilà, ça c'est mon point de vue à moi. En vue de l'effectif, non absolument pas. Je regarde les matchs du Barcelone, hein. Je regarde pratiquement tous les matchs du Barcelone et je regarde aussi tous les matchs du PSG et je vois les deux équipes. Franchement. En aucun cas, je peux imaginer que le PSG sorte face
attention,
au Barcelone
Stéphane,
avec la dernière saison
là,
de Kylian Mbappé. Pour moi, là, moi, je te dis clairement, là, je vois en, bah, comme Malik le dit, je le vois en simultané. Et là, je te le dis, franchement, la compétition, la Ligue des Champions pour le PSG, c'est tout droit jusqu'en finale. Mais là, franchement, il n'y a rien
papier,
qui doit les arrêter.
Sur le papier,
on prend le 11 titulaire du PSG.
Du Paris Saint-Germain est meilleur.
Laisse Alex poser sa question.
Mais bien sûr, il a déjà posé sa question.
Je voulais donner une stat, moi, qui va peut-être vous surprendre, c'est est-ce que vous savez combien de fois ce que je fais, je me fais l'avocat du diable de Luis Enrique, enfin l'avocat de Luis Enrique, vous savez combien de fois il a changé de 11 pour l'année où Barcelone a gagné la Ligue des Champions?
Non.
30 fois.
Oui. Il a même sorti Messi
fois.
À l'époque.
Il a sorti Messi 30 fois. Donc c'est pour ça quand j'entends des gens qui disent oui, Messi, mais ça,
c'est une de ses particularités.
Le mec, il fait.
Et c'est pas la peine de faire l'avocat de Luis Enrique, parce que Luis Enrique, c'est. Moi, je faut l'admirer que tous les supporters du PSG soient derrière lui. D'ailleurs, c'est le cas.
Ah, moi, je l'ai vu avec la sélection espagnole, c'était pas fameux.
Je parle pas de nous. C'est qu'ils veulent. C'est pour des raisons personnelles. Je pense un Dugarry, par exemple, ça s'est mal passé. Je crois qu'il a joué avec lui. À Barcelone, ça s'est mal passé.
Mais non, mais Stéphane, on n'a pas besoin d'entendre Dugarry ou quelqu'un d'autre. Ouais. On est quand même adulte majeur. On est amateur de foot. On regarde le foot. Moi, j'ai pas aimé tout simplement sa gestion du cas Kylian Mbappé. Ça, c'est un de deux. Je l'ai vu durant le mondial, le dernier mondial. Je l'ai vu coacher cette équipe espagnole. J'ai vu une équipe qui ronronnait au milieu de terrain, qui s'est même fait éliminer par le Maroc. Il n'avait aucune solution, aucun autre plan de jeu. Ça jouait pas vers l'avant. Il ronronnait autour de la défense marocaine,
moi,
il s'est fait sortir
l'Espagne.
J'ai des exemples aussi qui me permettent de ne pas être convaincu.
Pour sortir.
Après, quand on a Messi et qu'on gagne la Ligue des Champions, je veux dire, c'est un peu plus facile. Cette saison, on verra effectivement s'il sera à même de pouvoir amener cette équipe en demi-finale. Parce qu'il
faut, si tu dis après, il y a Mbappé.
Il faut le noter, hein, parce que. Non, il a Mbappé, mais parce qu'il faut le noter que Tourelle a quand même envoyé le Paris Saint-Germain en finale.
Tu veux qu'on enregistre l'émission, là ?
Elle est enregistrée, de fait. Elle est enregistrée, de fait.
S'ils vont en demi-finale, je te parie. Que notamment toi, par exemple, mais sinon les autres, les dont je parlais, là, les Dugarry, les Riolo et tout, diront ah mais il a été en demi-finale grâce à Kylian Mbappé, hein. Lui il y est pour rien comme il a gagné la Ligue des Champions grâce à Neymar et grâce à Messi. Lui il y est pour rien. Effectivement, un club, une sélection, ça n'a rien à voir déjà. Tu peux t'es pas tout le temps avec parce que je suis pas en train de te dire que c'est le meilleur entraîneur du monde. Je pense que c'est un très bon entraîneur. Laissons le faire ses idées. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, il a tout bon. Il a 12 points d'avance à 8 journées de la fin.
Attends, ça, tout le monde l'a fait. Hein. Même Galtier l'a fait.
Coupe de France, il l'a fait.
D'accord, ok.
On va progresser. Non, les amis, on va progresser parce qu'il faut qu'on avance. Il est déjà 21h20. Non, il est déjà 21h20. Hein. Si tu veux, tu lui poseras ça dans l'élément qui arrive. On va parler cette fois-ci. On reste toujours dans la Ligue des Champions. Qui de City ou du Real a le plus de chances de se qualifier? Parce que c'est une autre affiche de ce quart de finale. Alex,
je vais faire très rapide en étant 100% objectif. Sortir le Real Madrid, ça reste extrêmement compliqué, même si l'année dernière, bon, City était au-dessus, il n'y avait pas de débat. Mais sortir le Real encore plus quand il joue à 12, mais ça, c'est un autre débat, c'est compliqué. Donc, du coup, là, je donnerais comme ça 55-45 pour le Real Madrid.
Et toi, Ladj?
Franchement, je ne m'attendais pas à un point. D'un supporter de Barcelone, je ne m'attendais
vous
pas.
Vous savez très bien que je ne porte pas le Real Madrid dans mon cœur.
Non, ouais, bah, bien sûr, mais tu sais reconnaître au moins les champions et le meilleur club du monde. Merci, Alexandre. Du coup, oui, je disais, je pense qu'Alexandre, il a résumé la chose. Hein. Là, tout le monde voit Manchester City, comme Stéphane a pu le dire, et je pense qu'il le dira encore et confirmera, City vont exploser le Real Madrid. Ouais. Ça, c'est des personnes qui détestent le football et qui ne regardent pas beaucoup de choses. Pour dire ça, en tout cas, qu'ils vont les détruire avec une équipe amoindrie. Ils avaient réussi à les battre. Et là, franchement, moi, je pense que c'est City sont favoris, hein, mais je suis persuadé que le Real Madrid vont sortir Manchester City.
Il y a Militao et Courtois qui reviennent là.
Oui. Mais c'est problème, même sans ça.
Non, c'est une info. C'est
oui,
une
non,
info.
Même sans ça, même sans ça.
C'est une info.
Même sans ça.
Oui, Chakenza, Real, City.
Ouais, moi je pense que le Real a au moins 60% de la sortie. Parce que l'année dernière, c'est le Real il saute, mais parce que vraiment au match retour, c'était pas tout ça.
Ils ont été dominés. Hein,
ouais,
Ils ont été dominés.
Certes, ils ont été dominés, mais moi je pense qu'au match retour, avec un Rudiger vraiment en défense, le match allait se jouer autrement. Je pense que Carlo Ancelotti aussi, par moment, qui a des choix un peu. Que moi je partage pas, au moins il a des choix de débutants, je sais pas vraiment ce qu'il anime, mais ça n'enlève rien vraiment
exemple,
à sa grandeur.
Exemple.
Ouais, par moment il a fait certains choix et tout ça, même l'année d'avant, je sais pas pourquoi, en début de match il titularise pas Rodrigo et tout ça, et après il le fait rentrer, c'est lui qui nous fait gagner. C'est un coaching gagnant, mais je pense qu'au début du match avec un Rodrigo, le Real n'aurait pas pris ce jeu, parce que Rodrigo déjà c'est quelqu'un qui presse et tout ça, et qui est très très important dans l'animation.
Excuse-moi, chez Kenza de te couper, hein, mais franchement, tu peux dire que Carlo Ancelotti n'a pas été bon l'année dernière, et franchement je partage ton avis au niveau de contre Manchester City, hein, je partage entièrement ton avis, parce que le match aller il y a eu 1-1, et c'était deux rapports de force où City n'ont absolument pas dominé le Real Madrid. Match retour, le Real Madrid se sont fait dominer clairement, mais qu'est-ce qui a changé offensivement aussi, c'est le fait de ne pas défensivement, c'est le fait de ne pas avoir titularisé Rudiger qui avait muselé Haaland.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure.
L'année d'avant, le match d'avant, lui. Il l'a muselé et le match retour.
Mais vous
je
dites
ne
la même chose alors.
Oui, c'est exactement ce que je dis.
Mais avec un Rudiger, c'est autre chose. Le match change de physionomie.
Des choix plus ou moins contestables par moment au niveau d'Ancelotti. Philippe, City Real.
Allez, je vais les décevoir un tout petit peu. Je vais mettre un petit avantage à Manchester City, mais un 51-49.
Hein. Oh là, il se mouille pas.
Non. C'est vrai, attends, Malik, c'est quand même...
Philippe.
Il faut quand même penser Philippe, que c'est les deux meilleures équipes actuellement.
Philippe, 1%.
Ouais, mais ça va être très, très serré. C'est vrai que quand j'ai eu le tirage, je me suis dit... Et puis un petit avantage, un petit chouïa à Manchester City.
Et toi, Stéphane?
À votre avis?
Non, mais objectivement, Stéphane, je sais que tu n'aimes pas le Real,
non,
mais bon.
Non, objectif, je suis objectif. Là, sur ce coup-là, entièrement objectif. Et j'ai été. Le problème, c'est qu'elle a dit la raison. Il regarde plus de matchs que moi. J'en ai vu certains, mais je suis tombé sur les mauvais. C'est le problème, il est là. C'est ça. Quand on regarde pas assez, je tombe sur les mauvais parce que j'arrive pas à m'imaginer une seule seconde qu'une équipe qui joue contre, comme elle a joué contre Leipzig à l'aller comme au retour, le Real Madrid puisse tomber face à Manchester City. Pour moi, il n'y a pas photo, quoi. C'est du 70-30 pour City.
Pour City.
J'aime beaucoup ce que tu dis.
Il est où le match retour?
J'aime beaucoup ce que tu dis, Stéphane.
Ah, le match retour, je ne peux pas te dire, je ne l'ai pas.
Le match retour, il est à City.
C'est à City?
Oui.
Ah, en plus.
Il est à l'Etihad, le match retour.
Et puis, quelque part, on verra.
Moi aussi, je pense que City va... J'ai un penchant pour le Real, hein. Mais je pense que City va.
Vas-y, 51-49.
Il y a l'enfant, Stéphane, il y a un truc. Le Real, par contre, ils
n'arrivent pas tous ensemble. Oui, Stéphane.
Et si Haaland, il est aussi bon qu'on le dit, s'il y a bien un match où il faut qu'on le voit, au cas où ça ne se passerait pas très bien à l'aller, c'est bien là. Quoi.
Bah, il va falloir que De Bruyne soit là aussi. Si Kevin De Bruyne est là, oui, tu vas voir Haaland.
Ouais, mais excuse-moi.
La moitié de l'équipe qui est blessée. Ça va changer. Si tu as Bernardo Silva, Rudiger, Foden, Haaland, Rudiger, et il n'y aura pas photo. Il n'y a pas photo.
Ah non, franchement, Stéphane, il faut bien préciser, hein, Haaland, c'est toi que tu disais si bien, hein, le City peuvent gagner la Ligue des Champions, pouvait gagner la Ligue des Champions sans Haaland, et pas le contraire. Du coup, maintenant, ne dis pas que si Haaland fait un grand match ou quoi que ce soit, parce que Haaland aussi, dans les grands matchs, il n'a jamais fait quelque chose.
Et ben non,
pourtant,
mais,
je l'apprécie énormément, mais il n'a jamais rien fait dans les grands matchs, et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer.
Je suis ironique quand je dis ça. Il y a la limite, comme vous êtes toujours en train de
bien compris.
Haaland qui est superbe, et même si jamais le City pouvait être un peu en difficulté, comme ils ont le meilleur buteur de l'histoire de la planète, du monde, le meilleur joueur devant, bah, ils vont quand même passer. Ça, c'est ironique.
On reste toujours dans la Ligue des Champions. Cette fois-ci, les amis, il y a beaucoup de sujets. Il va falloir qu'on avance. Il est déjà 21h26. Arsenal face au Bayern Munich, les amis. Philippe.
Ça aussi, c'est un match équilibré. Il y a des affiches. Ouais, belles affiches, mais enfin, bon, de par son expérience, de par ses résultats du passé, je mettrai le Bayern de Munich.
Et toi, Chakenza?
Ouais, moi vraiment, je pense que le Bayern, là, je vois une autre équipe, là, sur tous les derniers matchs. Je vois qu'il y a des joueurs qui commencent à regagner un peu en confiance et tout ça, ouais. Surtout des cadres. Donc, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Mais par contre, moi, je dirais un 50-50. Parce que le Bayern aussi, par moment, ils peuvent te souhaiter une grande performance. La semaine d'après, une grande performance. Donc, c'est une équipe qui est tellement instable. Donc, on ne sait pas, ça sera un peu dans l'approche du match et tout ça. Et le discours aussi du coach. Mais je dis un 50-50 pour les deux équipes.
Chez Kenza, remets ta barbe, s'il te plaît. Moi, je dirais un 80-20.
Oui, elle a dit.
Et un 80-20. Moi, je dirais 80%.
Pour le Bayern.
Mais bien évidemment, tu veux que je dise pour Arsenal. Franchement, faut arrêter. T'as vu Arsenal jouer? Est-ce que tu as vu Arsenal jouer?
Oui, mais
ça soit même face à Porto. Mais ils sont qualifiés au tir au but et franchement, c'était.
Au fait, il y a un truc que je
vraiment
pas.
Très.
Là, on parle de la Ligue des Champions. Là, on parle de la Ligue
des Champions.
Chaque
Porto, c'est où?
On aborde chaque match de façon différente. Est-ce que tu t'imagines?
Chez Kenza, s'il te plaît.
Arsenal, Porto, ça, c'était un autre match. Là, on te parle d'Arsenal face au Bayern. Il y a des équipes qui ont tendance à élever le niveau.
Le match retour, c'est à Londres, cela dit.
En plus, il y a des équipes qui ont tendance à élever le niveau.
S'il te plaît, que ça soit match aller ou match retour, que ça soit même les deux matchs, même si ça se passe à Arsenal, pour moi, le Bayern vont gagner aller-retour. Il n'y a même pas débat là-dessus.
Ça, c'est ton
Bayern
avis.
Vont gagner aller-retour. Oui, et on en reparle.
Mais donne des arguments.
5-1, 5-1, ça dit quelque
chose.
Mais les arguments, ils sont très simples. Je vois Arsenal jouer face à Porto et je vois le Bayern gagner de l'autre côté. Franchement, ça n'a rien à voir. Jouer contre la Lazio, ça n'a strictement rien
et
à voir. C'est le jour et la nuit.
Et le match
Arsenal en Ligue des Champions. Arsenal en Ligue des Champions et que ça soit même pas que là, hein, même en phase de poule, que ça soit en phase de poule et maintenant Arsenal en Ligue des Champions, c'est une autre équipe. On les voit en première ligue, ils cartonnent les grosses équipes même, hein, mais ils reviennent en Champions League dès qu'ils entendent l'hymne, ils sont paralysés, ils ont peur, ils sont tétanisés.
Et
le Bayern,
et pourtant,
ils
sont en quart
de
finale quand même.
Oui, ils sont en quart de finale. Mais
Alex,
alors je vais être ultra contradictoire dans mes propos. Franchement, je sais pas si, parce que moi je regarde beaucoup de matchs du Bayern et c'est le pire Bayern que j'ai vu depuis 5 ans au moins, vraiment voire
plus.
Ah non,
je partage ton avis.
Et mais... contre la Lazio, détrompez-vous parce que les
On a un bon Arsenal.
Avant le but de Kane au match retour, la Lazio et le Bayern ils font match nul.
Ils font jeu égal,
Le but de Kane. Mais malgré tout ça, je pense que le Bayern va se qualifier parce que c'est le poids de l'histoire. Oui. Et comme tu as si bien rappelé, 5-1, mais c'est 15-3 sur les trois derniers matchs. Hein. Mmh. Les trois derniers matchs, c'est 15-3 pour le Bayern contre Arsenal. Et le poids de l'histoire, c'est très important.
Je ne suis pas aux statistiques.
C'est super important, les statistiques, détrompe-toi. Et donc, je donnerais un 55-45 pour le Bayern Munich, mais c'est, encore une fois, ça va se jouer à peu. Je suis pas de ton avis, un 80-20, là, je trouve ça vraiment abusé, surtout que le deuxième match est à Londres, comme a dit Malik.
Stéphane.
Ouais, bah moi, je suis plus proche d'Elad que des autres. C'est-à-dire que je vois pas du tout, en tout cas, je vois pas du tout Arsenal, je sais pas combien ça est, 2%, mais je vois pas Arsenal passé. Moi aussi, c'est vrai que bien que des fois, tiens, en regardant trois ou quatre écrans à la fois, on voit pas vraiment bien exactement ce qui se passe. Hein.
Mais quand on est jeune, ça va. J'avoue, quand on est vieux, c'est compliqué, mais quand on est jeune,
non,
ça va.
Non, mais c'est une blague.
Je
te fais confiance. Et là, sur le niveau des équipes, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, moi, je vois bien Arsenal perdre les deux matchs. Moi, je verrais bien Arsenal perdre l'aller comme le retour.
Non.
ils sont premiers première ligue.
Avant de se faire gifler par City là bientôt.
Bah écoute, comme tu disais, mon cher Stéphane, tout est podcasté. On va reprendre tous ces éléments-là d'ici 3 semaines et puis on verra qui a eu justement le bon pronostic, la bonne analyse et puis les bons
City,
arguments. On va partir cette fois-ci, les amis, à un cran en dessous de la Ligue des Champions, l'Europa League. On va s'arrêter sur l'Olympique de Marseille qui a été tiré au sort en face au Benfica de Lisbonne. Vos avis, quelles sont les chances marseillaises?
Comme le PSG contre Barcelone, c'est entièrement jouable pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc, et là aussi, comme pour le PSG contre Barcelone, l'adversaire numéro 1 de Marseille, c'est l'Olympique de Marseille.
Je vais rebondir et je ne suis pas totalement d'accord. Ouais. Pour moi, ça reste le meilleur tirage. C'était soit lui, soit l'Atalanta. Pour moi, c'était les deux meilleurs tirages possibles pour Marseille. Mais honnêtement, Marseille, je les vois très très mal passer. Même si le Benfica, ils ont pris une gifle là, contre Porto il n'y a pas très longtemps.
Le match retour, c'est au Portugal.
Le match retour, en plus, c'est au Portugal. Mais je l'ai le match retour, c'est à Marseille.
C'est au Vélodrome.
C'est au Vélodrome le 17, ouais.
Ah bon, vous êtes
le 18,
vous êtes sûr, les amis ?
Jeudi 18, c'est au Vélodrome.
Ouais, moi, je suis sûr.
Moi, j'ai le 11, Benfica-Marseille. Et puis le 18, Marseille-Benfica.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est
voilà, ouais, c'est ça.
Mais Marseille, je ne les vois pas se qualifier. Ouais. Le Benfica, c'est toujours les clubs portugais, c'est toujours des valeurs sûres en Europe et les clubs français ont beaucoup de mal face aux clubs portugais. Donc ça va être très très compliqué
très
pour l'Olympique de Marseille.
Ouais, je suis d'avis. Eladj ?
Oui, je pense qu'Alexandre il a résumé le fait. Hein. Les équipes françaises ont du mal contre les équipes portugaises, mais même hormis ça, franchement, moi je vois un Marseille franchement là contre Villarreal, ils nous ont fait très peur. Hein. Là, on était assez à l'aise. On s'est dit même s'ils perdent, ils vont perdre peut-être 1-0, 2-0, max. Et encore, là, franchement, on a frôlé la catastrophe. On était à 1-3-0 et je suis persuadé que si Aubameyang ne fait pas la passe décisive à Klose et il marque dans le temps additionnel, Villarreal, je suis sûr à 100% que Villarreal mette le 4e but. Comme, franchement, c'était une domination mais totale. À la 55e minute, ils jouaient comme si c'était la 90e minute, tous rapatriés en défense en faisant le bus et à subir tout au long du match. Il y a eu une seule once de lumière et c'était au moment où Aubameyang a eu son face-à-face qui met à côté. Et c'est ça aussi que je reproche à Aubameyang. Après, il s'est bien rattrapé.
À l'entame de la deuxième mi-temps, oui.
Oui, mais il s'est bien rattrapé. Mais franchement, ce genre de là, par exemple, ils auront pris le 4e.
Mais est-ce que justement sur ce match, est-ce qu'il n'y a pas quand même une erreur de coaching, de Gassé? Parce que j'ai vu la composition d'équipe d'entrée de jeu, les personnes qui étaient avec moi, j'ai dit mais c'est une erreur de ne pas titulariser tout de suite Aubameyang et Elman Ndiaye, parce que tout simplement, ce sont ces atouts qui ont fait reculer cette défense de Villarreal, quitte après, en seconde mi-temps, à les sortir. Mais ne pas les titulariser, c'est donner justement cet avantage qu'allait faire espérer Villarreal et ça n'a pas loupé.
Malik, il y a deux stratégies. Moi, je pense que ni l'une est forcément plus bonne que l'autre. À partir du moment où à la mi-temps même, tu es sur un 0-0 et que tu sortes tes meilleurs joueurs.
Il y a 1-0 à la mi-temps,
oui,
je crois.
Oui, là, mais en gros, je pars du fait où si, par exemple, il y a 0-0, tu titularises les Aubameyang, etc. Et à la mi-temps, il y a 0-0. Et ou même, ils perdent 1-0 et ils se disent, bon, le match, il est maîtrisé. En tout cas, on ne va pas perdre 4-0. Et du coup, ils sortent Aubameyang et il peut arriver une catastrophe. En tout cas, il sort ses meilleurs joueurs à ce moment-là. Il peut arriver une catastrophe. Moi, je pense que la meilleure solution était de les mettre de repos.
Non, mais parce que je dis ça, pourquoi? Parce que si tu marques un but sur place, Villarreal est dans le doute, encore plus important. C'est dans ce sens-là que je dis ça.
C'est vrai, mais franchement,
l'histoire, c'était de faire véritablement douter une bonne fois pour toutes Villarreal.
Franchement, oui, mais franchement.
Sauf que là, avec cette composition d'équipe, il a donné de l'espoir à Villarreal et t'as vu, ça a failli y passer.
Et Malik, il n'a juste pas titularisé Aubameyang.
Bah oui, mais c'est son meilleur joueur.
Mais juste Aubameyang.
Derrière Aubameyang, tu mets qui? Mumbanya?
Non, mais il a mis
Mumbanya, c'est niveau DH. Excuse-moi. Bah oui, il faut arrêter.
Je suis d'accord.
Bah oui,
ça joue pas à l'Olympique de Marseille, Mumbanya.
Non, je suis désolé.
Non,
c'est niveau DH.
Moi, franchement, je te dis juste, c'était le collectif de Marseille. Et cette fois-ci, le collectif de Marseille était bien présent. La défense, c'était vraiment les titulaires. Et à ce niveau-là, moi, je pense qu'on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Il voulait faire reposer un peu son attaquant qui enchaîne les doublés et les très bonnes performances. Ça se comprend. T'imagines, il le met titulaire, il se blesse, première mi-temps, il sort.
Oh, mais Qu'est-ce qu'on dit, après, on peut pas.
Il gagne 4-0.
Non,
mais il gagne 4-0 au match aller. Franchement, ça devait être un match maîtrisé.
Mais parce que derrière, il n'y a personne, justement. C'est là où tu vois les limites du recrutement marseillais. Mbagna peut pas suppléer à Aubameyang, en faisant peur à l'adversaire. C'est pas possible.
Il y a pas de
ça s'est vu. Ça s'est vu. C'est pas possible. Stéphane, est-ce que tu penses que l'Olympique de Marseille a une chance face à Benfica?
Oui. Moi, je pense qu'ils ont une chance. Ils ont une chance face à Benfica. mais ils ne sont pas favoris. Le favori, c'est Benfica. Si on devait dire à l'avant, je dirais c'est 55-45. Mais dans 55-45, il y a 45. Hein, donc, s'ils réussissent bien leur match avec un match retour à domicile, maintenant, effectivement, on peut débattre sur… c'est vrai que, oui, 55-45, pourquoi ? Parce qu'effectivement, Marseille n'a pas l'effectif, quoi. Je veux dire, c'est tout à fait normal, mais franchement, c'est l'équipe que met Gasset au coup d'envoi. Il a complètement raison. Il aurait même pu faire encore tourner 2-3 autres, quoi. Mais il y a trop de joueurs. Alors, tu disais Malik DH, mais il y a trop de joueurs qui n'ont pas le niveau. Je le dis depuis longtemps.
Mais raison de plus pour titulariser Aubameyang, assurer le résultat.
Ouais. Comment ?
Je dis raison de plus pour titulariser Aubameyang, pour au moins assurer le résultat, après, au moins marquer le but problème, qui fera douter problème, Villarreal une bonne fois pour toutes.
Ouais, mais le problème, c'est que sur ce coup-là, il perd sur tous les tableaux, Gasset, et tout simplement parce que là, je peux vous dire que Gasset, il s'est rendu compte, après l'euphorie de l'arrivée et tout, il s'est rendu compte, je pense qu'il avait un effectif pourri, quoi, parce que lui, il gère le Villarreal et il gère Rennes après. Et il se dit, si on gagne à Rennes, t'imagines, s'ils avaient gagné à Rennes, il serait à 42 points, il serait à 1 point de la 4e place. Il aurait fait un truc extraordinaire, quoi. Mm-hmm. Donc, il se dit, on a gagné 4-0, je vais mettre, et il aurait pu mettre encore plus, je vais mettre 3-4 joueurs au repos, j'ai une équipe solide, collectivement, on va tenir le résultat, on va peut-être perdre 2-0 avec un 2-0 dans les cas à la 80e, ça va se passer comme ça. Ouais. Et le problème, c'est qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Et tout son intérêt était d'avoir Aubameyang, Harit. Alors, on s'enflamme pour Harit. Moi, je n'ai pas vu quasiment, très, très peu de choses bien de la part d'Harit depuis le début de saison, même depuis Gasset.
De toute façon, depuis sa blessure avant le mondial, Harit n'est plus aussi tranchant. Hein.
Ah ouais, mais alors que lui, il pouvait jouer, hein, ou il pouvait rester sur la touche, hein, parce qu'il n'a pas. Donc, c'est normal. Et moi, je pense qu'il aurait même pu, peut-être, s'il avait eu un effectif un peu meilleur, faire plus de changements. Mais après, ils ont décidé, je ne sais pas pourquoi, de mettre. Ils recrutent des joueurs, ou ils récupèrent des joueurs, ils ne les mettent pas sur la liste de Coupe d'Europe. Je pense à Gueye, au Nana.
Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez incompréhensibles, hein, au niveau de la gestion de l'effectif marseillais, et surtout même au niveau du recrutement, parce que tu as parlé d'Onana, Moubagna, tout ça, j'ai pas l'impression que ces joueurs-là doivent justement appartenir aujourd'hui à l'effectif de l'Olympique de Marseille. On va basculer.
Ouais, Moubagna, ils l'ont acheté 8, hein, tu fais 8 plus 35 de Mitinan, 43 millions d'euros.
Bon, voilà, c'est une mauvaise affaire. À présent, les amis, en Conference League, on a encore un représentant, Lille, qui va affronter Aston Villa. C'est pas un petit morceau, bien que Aston Villa ces temps-ci quand même est un peu en dedans aussi, hein.
Ouais, les Villains.
Chakenza dans le micro.
Ouais, les Villains, vraiment, c'est pas, mais je crois que moi, mon pronostic, je vois pas Lille vraiment battre Aston Villa, parce que le plus souvent les équipes françaises
réussissent. Il y a l'aller ni au retour.
Non, je les vois pas, peut-être à l'aller, peut-être je les vois faire un résultat nul, mais je les vois pas vraiment battre cette équipe d'Aston Villa, parce que je sais pas, les équipes anglaises nous réussissent très peu, et c'est pas le même profil, parce que Villans, cette saison avec la Conference League, ils se disent que oui, gagner la Conference League, c'est aussi une place aussi pour l'Europa League, donc ils vont pas la lâcher, ils vont mettre tout déjà. Je pense mon pronostic est pour Aston Villa.
Et toi, Philippe ?
Oui, c'est très compliqué là pour Lille. Hein. Là, effectivement, on pouvait penser que c'était l'équipe qui irait le plus loin en Coupe d'Europe, les clubs français, mais là, ça va être très, très compliqué. Et je suis un petit peu d'accord. Aston Villa, favori face à Lille pour poursuivre l'aventure.
Ton pourcentage ?
Elage ?
Oh, 60-40.
Elage, pour toi ?
T'es très limite toujours dans tes pourcentages.
Ouais, 60-40, t'es gentil. Quand même.
Franchement, t'es gentil.
Ouais. C'est quoi, 80-20 aussi ?
Ouais, on peut partir.
C'est-à-dire 80-20, ils prennent 3-4-0, c'est pas
mal. Non, c'est ça.
Ouais. Tu dis quoi ?
70-30,
c'est ça, un 80-20.
Elage, tu dis quoi ?
Oui, moi, c'est ça, 3-4-0. Hein. Ils vont prendre au moins. Oui, ils vont prendre l'eau. 3-4-0 au moins. Aston Villa, facile, oui, je pense que c'est la.
Et toi, Alex ?
Ouais, moi, franchement, je vais vous surprendre, mais ça va être du 95-5. Hein. Ah, mais non, je suis très sérieux, parce que c'est là qu'on voit la faiblesse du championnat. Là, c'est le 4e de Première Ligue contre le 4e de Ligue 1. Il n'y en a aucun qui voit Lille battre Aston Villa.
Jonathan David, il est en forme, là. Hein.
Ouais, ou même avec Jonathan David, quand même, c'est pas le même calibre. Quand même, l'autre côté, t'as Villan.
L'autre côté.
Ouais, quand même.
Il n'y a pas un monde où Lille se qualifie pour moi.
Et Stéphane, un peu d'espoir ?
Ouais, moi, largement. Ouais. Je pense que Lille est capable de passer. Aston Villa est favori, mais pas plus, pas beaucoup plus que Benfica l'est. Lille, cette année, quand même, là, je l'ai aussi beaucoup vu Lille jouer. Donc Lille, cette année, c'est vraiment une très bonne équipe qui a un excellent entraîneur, qui a un peu quand même aussi de profondeur, quand même malgré tout, qui va pouvoir permettre à peut-être à David de souffler un petit peu avant. Mm-hmm. Ça tout dépend un peu du championnat, parce que s'ils sont quand même à la lutte, c'est très très serré pour terminer dans les quatre premiers. Mais moi, je pense que Fonseca, il peut nous sortir un truc. En tout cas, je pense que ça va être beaucoup plus serré qu'on le pense. Mm-hmm. C'est possible. Je n'exclus pas effectivement qu'Aston Villa gagne les deux matchs. Hein. Gagne à Lille et gagne après au retour. Mais je pense que ça sera très loin du 2-3-0 à chaque match et tout. Je pense que ça va jouer. Je vois même peut-être, allez, je me lance une qualification des Anglais au tir au but.
Merci Stéphane. Juste après la pub, les amis, encore un programme très lourd et très riche. On va évoquer la Ligue 1, on va évoquer Antoine Camboire, justement, qui revient au FC Nantes. Et puis, on va parler des JO avec une sélection de Thierry Henry, qui, ma foi, est en train de se préciser avec pas mal de doutes malgré tout. On revient juste après à 21h40 sur mon Paris FM. Bougez pas.
Vous cherchez le week-end parfait?
Ne cherchez plus.
Week-end africain, le rendez-vous incontournable du monde afro. De l'info, du divertissement et des débats. Rejoignez Malik Eudy et son équipe chaque vendredi à 19h en direct sur Mon Paris FM. Week-end africain, la garantie d'un week-end toujours bien rempli.
David roule tranquillement en centre-ville. Il reçoit un message et ne résiste pas à l'envie d'y répondre. Comme tous les jours, Julie rentre du collège. Elle traverse la rue et sera tuée sur le coup. Sa mère n'osera plus toucher à sa chambre. Son père se cachera pour pleurer. Sa classe se figera dans le silence. Et son professeur donnera le cours le plus dur de sa vie. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables.
Retour plateau dans Au bout du foot sur Mon Paris FM avec Philippe, avec Chakenza, avec Alex, avec notre ami Eladj ainsi que notre ami du quotidien du sport.fr Stéphane Dezenclos. Les amis, à présent on va s'arrêter sur la Ligue 1. Chacun va donner l'affiche justement qui a retenu son attention ici même dans ce studio en Ligue 1, les amis. Eladj.
En Ligue 1, là, bah, ouais. C'est, franchement, c'est le PSG Montpellier. Hein. Je me suis régalé.
Ouais, mais c'était écrit d'avance, non? Quelque part.
Oui, mais la manière. J'ai beaucoup aimé la manière. J'ai beaucoup aimé même Montpellier, la façon dont Montpellier ont joué. Sont revenus parce que PSG menait 2-0, ils n'ont pas lâché, ils sont revenus à 2-2. Il y avait un espoir quand même du côté Montpellier. Moi, c'est pour ça que j'ai aimé ce match-là. Et cet espoir, même s'il a été balayé assez rapidement, ça a été un match,
surtout en deuxième mi-temps.
Oui,
voilà, après j'ai zappé, voilà. Hein, je suis allé regarder Barça parce que après je me suis dit c'est bon, c'est plié là. Alex ?
Moi, c'était Rennes-Marseille, pardon. Et donc les Rennais qui reviennent bien. Et les Marseillais bon, qui continuent de décevoir. Et justement, ça laisse pas un bon présage. Bon, après, là, c'est la trêve, mais ça laisse pas un bon présage justement pour le match dont on parlait tout à l'heure. Et les Marseillais, bon, ils ont eu un sursaut d'orgueil quand Jean-Louis Gasset est arrivé avec trois victoires, je crois. Et là, ça fait deux matchs de défaite.
Un peu plus, même, je crois. 4-5 matchs. Hein.
Ouais, 4-5 matchs,
ouais,
quand
même. Ouais, quand même. Ouais, mais, au moins 5 matchs, je crois.
Mais non, voilà, ils m'ont un peu déçu, les Marseillais. Et, voilà.
Mais justement, à ce propos, on a Jean-Louis Gasset. On a un extrait, justement, de son interview après le match face à Rennes.
On a fait jeu égal avec eux. En première mi-temps, on tenait le ballon. Une erreur d'inattention a fait qu'on a pris un but. Mais je pense qu'on a donné tout ce qu'on avait. Voilà, je leur ai dit. On vient de passer 25 jours ensemble. J'ai fait un petit bilan. On aurait aimé continuer cette dynamique positive. Mais malheureusement, il nous a manqué un peu d'essence, un peu d'oxygène. Non, mais il est bien évident que quand on voit les joueurs qui sont pas là, comme Gigot, comme Balerdi, comme Rongier, ça nous pénalise, bien sûr.
Alors voilà, juste après le match face à Rennes, la défaite de 2-0, hein, Jean-Louis Gasset, mais aussi cette défaite sous le compte de la fatigue et puis de quelques absents, mon cher.
Il fallait bien que ça arrive, hein, de toute façon.
Bah
hein,
oui.
Ils n'allaient pas rester indéfiniment invaincus. Bon, pour moi, je pense que sur le plan du football, il y a eu un beau Lyon-Toulouse qui avait ouvert les hostilités. Sinon, parmi les résultats les plus importants, c'est naturellement, et ça va faire le lien avec. Avec la suite de nos débats, c'est la nouvelle défaite de Nantes qui enfonce encore un peu plus Nantes face à Strasbourg. Et puis, qui fait qu'on appelle les revenants. Quoi.
C'est Kenza, l'affiche pour toi, en Ligue 1, qui a retenu ton attention.
Bon, moi, l'affiche, c'est Reims face à Metz avec Oumar Diakité qui est depuis son retour de la CAN, c'est 3 buts, une passe décisive et tout ça. Allez, désolé, Eladj, oui, quand même.
Non, mais pourquoi tu me dis désolé, Eladj?
Voilà, désolé, parce que je t'ai vu vraiment râler un peu et tout ça. C'est normal. Après, c'est mes compatriotes. C'est quand même, il ne faut pas oublier le plus de 125. Même si je suis consultant, je me dois d'être professionnel. Quand même, oui, parce que Oumar Diakité, depuis pas mal de matchs, et, ouais, il nous prouve que voilà, vraiment, c'est un joueur prometteur et tout ça. C'est un joueur qui a un bel avenir.
Jacques Elza a du mal à sortir de sa peau de supporter. Hein. C'est un truc de fou.
Non, mais ça n'a rien à voir. C'est un match que moi j'ai regardé.
C'est ton avis.
C'est un match que tu ne peux même pas voir tout seul. C'est un match que tu as vu en multiplex. Comme moi, je l'ai vu aussi en multiplex.
Ouais, mais bien sûr, parce que oui, j'aime bien Oumar Diakité parce ses prises et tout ça. Et,
non,
oui,
c'est vrai qu'en ce moment, il est en confiance depuis son retour.
Et il n'y a pas que lui aussi. Il y a Agbadou aussi qui nous sort vraiment une très grande saison. Pour moi, qui méritait aussi d'être à la CAN. Donc, Reims, quand même, c'est un beau collectif.
On peut appeler tout le monde, les amis.
Oui, c'est un beau collectif qui s'est dégagé.
Là, il vient d'être appelé. Là.
Oui.
Stéphane.
Oui.
Quel est le match qui a retenu ton attention?
Le match qui a le plus 1. Retenu mon attention, c'est pas mon préféré, hein, mais le match qui a le plus retenu mon attention, c'est Lens-Nice.
Ouais,
parce
bon,
que
aussi,
pour moi, ça c'est un résumé, un condensé un peu de tout ce que je pense, que de Lens, par exemple, qui est très, très largement surcoté, qui n'a pas de buteur, que Eliwahi, c'est une catastrophe,
et
que S continue à s'enfoncer avec lui, je n'arrive pas à le comprendre. Quoi. Après, Nice, c'est toujours pareil, sauf qu'ils ont retrouvé, c'est exactement ce que j'ai toujours pensé, ils ont retrouvé la baraka et la réussite, peut-être qu'ils ont été la chercher, hein, comme ils ont été
non,
la chercher.
Non, mais je suis désolé, je pense qu'il y a eu au moins 2 buts offerts hein, sur un plateau. Hein.
Voilà, exactement. Il y a eu 2 buts offerts. Donc, c'est de la réussite. Hein, on ne va pas leur en vouloir. C'est le foot. Hein. Mais c'est la réussite qu'ils avaient en première partie de saison. Quand ils ne l'ont pas, ils n'y arrivent pas. Ils perdent leur match ou ils font des matchs nuls. Et puis, quant à Lens, ils y arrivent de temps en temps, mais pas, tu ne peux pas sans avancement. Tu ne peux pas. Quoi. Donc, ça, pour moi, ça confirme, ça symbolise tout à fait, entre guillemets, aussi peut-être la faiblesse de la Ligue 1.
Excuse-moi, merci, j'avais Stéphane. Une petite remarque dessus.
Mais il faut qu'on avance.
Non, comme il disait qu'il n'y a pas d'avant-centre, Eliwahi, même moi, si je ne l'apprécie pas beaucoup, il a quand même marqué. Hein. Et franchement, en ce moment, il marque. Là, je pense qu'il ne faut pas trop.
Non, mais là, son match.
Merci, les amis. Stéphane, il faut qu'on avance. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'elle aille te relance.
C'est bon,
quel choix pour quel résultat, les amis? On va parler d'Antoine Comboiré, justement, de retour au FC Nantes. Quels sont vos avis là-dessus? Puis après ça, on va finir justement avec Mbappé, notamment. On va se poser la question de savoir si Mbappé est le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue 1. C'est vous dire que le programme, il est encore lourd, les amis. Donc, on va aller au pas de course. Mon cher Alexa.
Moi, je trouve ça toujours un peu bizarre, les entraîneurs qui reviennent comme ça, les Pascal Duprat, les Jean-Louis Gasset.
Mais il faut bien qu'ils travaillent aussi, champion.
Ouais, mais les Antoine Comboiré. Et en fait, le fait qu'ils reviennent, ça prouve une faiblesse énorme. Et un aveu de faiblesse en fait, et surtout une gestion catastrophique depuis des années de Valdemar Quitta qui fait n'importe quoi. Et donc, du coup, le fait de recruter Antoine Comboiré, peut-être pour réveiller les esprits un peu à la Jean-Louis Gasset, je suis pas sûr que ça change quelque chose.
Il a dit qu'il a besoin de quelqu'un qui est respecté dans le vestiaire, sous-entendu que notre ami Gourvenec n'était pas du tout respecté. Cheikh Kenza, ton avis sur le retour de Comboiré au FC Nantes?
Moi, je pense que c'est un peu un choix par défaut. C'est un peu un choix par défaut parce qu'il a regardé un peu et tout ça. Valdemar Quitta, il a vu que oui, Antoine Comboiré vraiment pourrait faire l'affaire. Parce que même, quoi qu'on dise vraiment, Antoine Comboiré, son dernier passage à Nantes, vraiment, c'est 52 matchs pour 32 victoires, 8 nuls, 12 défaites quand même. C'est un bilan quand même qui est positif dans l'ensemble. Donc, je pense qu'il pourrait faire l'affaire et tout ça d'ici la fin de saison et pourquoi pas le prolonger. Mais c'est quelqu'un aussi qui a de l'expérience aussi dans le milieu du football local et ouais, qui a entraîné pas mal de clubs et tout ça, qui connaît un peu, qui a les bons discours aussi. Qui, même si ce n'est pas le top entraîneur vraiment de Ligue 1, mais c'est quelqu'un aussi qui a du vécu et ça pourrait faire un bien fou au vestiaire.
Eladj, le retour de Comboiré du côté du FC Nantes, oui, ton sentiment?
Ben, moi, je pense à Abou. Hein. Je ne sais pas si Abou nous écoute, mais j'espère. Comme il dit, comme d'habitude, hein, la Ligue 1, ça tourne en boucle. C'est toujours les mêmes entraîneurs, c'est toujours les mêmes choses. On appelle les pompiers de service dès que ça ne va pas. Et Comboiré est un pompier de service qui va venir essayer d'éteindre le feu. Je ne sais pas s'il va réussir, mais voilà, j'en pense pas plus que ça.
Ouais, effectivement, Comboiré, pompier de service. Alors bon, il connaît l'environnement du club puisqu'il a joué il y a très longtemps à Nantes. Il a été aussi entraîneur. Mais enfin, ça prouve bien effectivement que Kita, il fait n'importe quoi. Il change d'entraîneur régulièrement et ça marche jamais. Hein, jusqu'à Domenech qui avait fait quelques matchs.
Il a fait trois jours, lui, non?
Ouais, trois jours. Je ne sais plus combien
de matchs. Non, je rigole, mais
enfin, Kita, c'est n'importe quoi. Je crois que c'est le troisième entraîneur cette saison. Il y avait Aristoy en début de saison. Il y a eu
Gourvenec.
Gourvenec. Bon, bah voilà, c'est dans la lignée de effectivement de ce que fait Kita et les mauvais choix qu'il fait depuis des années et des années.
Stéphane ?
Oui, le souci principal, c'est de changer d'entraîneur, quoi, parce que à partir du moment où on est à 8 matchs de la fin, qui aurait pu essayer de faire quelque chose, sauf que quelqu'un qui connaît le club, qui connaît le groupe et tout. Donc ça pose un peu. Maintenant, fallait-il changer ? Moi, je pense pas qu'il fallait écarter.
Mais apparemment, il n'était pas écouté, il n'était pas respecté dans l'équipe, dans les vestiaires.
Bah, c'est ce que on interprète d'après ce qui a été dit, mais bon, je suis pas d'accord.
C'est celui qui fait l'échec, il a dit. Hein. On peut le croire quand même.
Bah, il n'a pas dit qu'il n'était pas respecté. Il a dit qu'il faut quelqu'un qui soit respecté.
Ouais, mais on comprend bien les choses entre les lignes. C'est ce que ça veut dire, mon cher Stéphane.
Non. Je pense que c'est de l'interprétation. Il faut quelqu'un. Si tu veux quelqu'un qui soit hyper respecté, c'est qu'en gros, pour moi, j'interprète cette phrase en disant il faut un général de commando, un béret vert.
là-dessus, on peut faire confiance à Comboire et là-dessus.
Ouais. Qui va adresser tout le monde.
Je pense que peut-être qu'avec Antoine Comboiré, on n'est pas loin de ça, justement.
Ouais, ça, on peut faire confiance.
C'est peut-être pour ça qu'il a été recruté aussi.
Voilà, oui, non, mais
sachant que tous les deux étaient à couteau tiré quand même assez régulièrement quand il y était. Hein.
Parce que je crois qu'en plus, Kita s'entendait très bien avec Gourvenec. Hein. Il n'y avait pas du tout de tout se passait très bien dans les idées qu'il aimait bien parler foot avec lui. Il aimait bien ses avis, ses positions, sa philosophie et tout, et je pense que c'était pas mal, quoi. Maintenant, bon, je pense déjà dès le début, Aristou, il aurait jamais dû être écarté. Et c'est incroyable de voir ce type de gestion, quoi. C'est incroyable. Maintenant, effectivement, on peut pas dire que à 8 matchs de la fin, à partir du moment où tu as décidé de changer, je trouve que c'est une erreur de changer, mais à partir du moment où tu décides de changer, je pense qu'à ce moment-là, les candidatures, elles sont quand même un petit peu limitées. Mais je ne suis pas sûr non plus que j'aurais choisi. Il y a certainement d'autres joueurs à choisir.
À présent, les amis, la question au bout du foot. Mbappé est-il le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue 1, mon cher Alex? En oui. 30 secondes.
Oui. Quand j'ai vu la question, je me suis dit non, pas du tout, c'est n'importe quoi. Jamais Mbappé, c'est le meilleur joueur de la Ligue 1. Puis ensuite, j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis dit, qui a fait plus que Mbappé en Ligue 1, a marqué plus de buts, a marqué les esprits autant? J'en vois pas énormément. Il y a des joueurs marquants de la Ligue 1, bien sûr. Lacazette, Briand, même avant, Papin, etc. Mais à l'instant T, je serais tenté de dire oui, Mbappé est le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue 1.
Mon cher Eladj, même question pour toi.
Oui, je pense aussi que Mbappé est le plus grand joueur de la Ligue 1.
De l'histoire, je veux dire. De
l'histoire de la Ligue 1. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, parce que c'est très compliqué.
Anciennement, première division également. Ouais. On va préciser
c'est
ça.
C'est très compliqué. Je pense que, tu vois, il y en a qui vont avoir des réflexions un peu plus approfondies, comme Philippe, parce qu'ils ont vu des Weah,
Platini, Zidane, et beaucoup plus loin.
Tu vois,
Philippe qui était à l'époque. Non, mais enfin, Copa, je n'ai pas connu.
Philippe, on laisse finir là.
Moi, de ce que j'ai vu. Voilà, de ce que j'ai vu, moi, oui.
Alors, Philippe.
Ah, c'est sûr qu'il fait partie du top 5, ça, sans problème. Après, est-ce que c'est le meilleur, Platini? Michel Platini, il avait un aura sur le jeu. Zinedine Zidane, et puis, bon, les plus anciens, ils verront Skoblar, Magnusson, Salif Keita. Ça fait de Suzic au Paris Saint-Germain. Pff, ouais, alors, dire que c'est le meilleur de tous les temps, c'est un peu trop présomptueux. Maintenant, oui, il est dans le top 5 sans aucun problème.
Chez Kenza.
Ouais, moi, je dirais plutôt le meilleur à notre époque, parce que oui. L'ancienne époque, on ne sait pas grand-chose. Ben oui. Oui, parce qu'à l'époque, le football, ce qu'on sait, ce n'était pas basé seulement que sur les buts. Il fallait aussi donner du spectacle et tout ça. Les stats comptaient peu. Mais à notre époque, on est plus figé sur les stats. Je pense qu'à notre époque, Mbappé est le meilleur.
Il y avait plus d'espace dans le jeu, surtout.
Oui,
voilà.
Moi, c'est mon avis. Oui. Pour moi, il est le meilleur parce que là, je suis de cette époque-là. Donc, il est le meilleur. Je n'en ai pas vu mieux que lui en thème, oui, en thème de stats et tout ça. Même en thème de, voilà, d'influence sur le jeu, je n'en ai pas vu mieux.
Stéphane ?
Oui, bah, bien sûr. Déjà, petite précision, si vous voulez. La Ligue 1, elle est née en 2001. Donc déjà, si on parle que de Ligue 1, c'est 2001. Après, effectivement, elle est dans les années... Papin et tout ça, ouais. C'est compliqué. Maintenant, il y a eu des très bons joueurs qui sont passés en Ligue 1, mais si tu regardes déjà à partir de 2001, donc même pas que maintenant, hein, de 2001, donc les 23 dernières années, il n'y a aucun joueur, bien meilleur joueur de Ligue 1. Parce que même avant Philippe, tu parles de Michel Platini, je ne suis pas certain qu'il ait marqué vraiment la Ligue 1. La Ligue 1 ou la première division, en tout cas c'est la première division pour lui à ce point-là.
Dominique Rocheteau, Zinedine Zidane, il y en a eu des
voilà,
tas quand
ouais,
même.
Ouais,
hein.
Bon, après,
même Zidane, hein, il a fallu qu'il parte quand même.
Il a quand même
non,
été Zidane, Bordeaux.
Non, mais c'est pareil, Zidane, il n'a pas marqué, la première division. Ça a été des très bons joueurs. Oui. Mais il y a ces mecs, tu te rends compte, Kylian Mbappé, ça, là, s'il va être champion, c'est 7 titres de champion. Et pour moi, vous savez qui c'est le deuxième plus... Bon, là, je vais dire le nom, c'est pas la peine. Non, je ne le dis pas, le nom du deuxième, parce que ça va faire... On est là jusqu'à minuit. Le troisième,
non, mais dis-le,
par
on
exemple,
va pas débattre, mais dis-le, quand même. Là, tu
peux pas... De toute façon, on peut pas débattre, il est 56.
Alors... Le deuxième plus grand joueur de l'histoire de la Ligue 1, c'est Neymar. Et le troisième, c'est Juninho, le Lyonnais.
Mais t'aurais pas dû le dire. Hein.
Ah ouais, ah ouais. Voilà.
Alors, non, fallait le garder.
Non, non, ouais. Fallait le garder, mon cher Stéphane.
Tu aurais pu lui dire Messi. Alors, je pense
pour dire,
merci,
on va pas faire le débat lui.
Je préfère l'impact qu'a eu Juninho dans le championnat de France que Neymar, hein, déjà.
Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y avait quand même.
Moi, je mettais Didier Drogba avant Neymar. Moi, je mettais Didier Drogba. Ah oui, c'est mon avis. On est libre de.
Oui, oui.
Moi, je mettais Didier Drogba.
On va bien quitter bientôt. Chez Kenza, c'est bon, stop.
Je voulais simplement dire
oui,
que
Philippe, la voix de la sagesse, parce que chacun
d'entre
nous est fatigué.
Ouais. Le championnat était peut-être un peu plus serré dans le passé, d'une façon générale. Maintenant, le PSG écrase un peu plus le championnat. On a Lyon à un moment, mais c'est vrai que rarement des équipes ont autant écrasé le championnat que le PSG depuis un certain nombre d'années.
Mm-hmm. Ah, Stéphane, t'as bien ponctué là. Hein. Tu nous as fait réagir là.
Non,
là, t'es content là maintenant.
Mais Drogba est pas loin, il est quatrième. Drogba.
Il a fait une seule saison, les amis.
Mais
enfin bref.
Une saison,
même la
Cazette, une saison que Drogba a fait, la saison qui
Drogba il a fait 3 saisons en Ligue 1.
Mais il y a un truc, on en parle peu.
Marseille.
À l'époque, le football c'était pas que les buts, c'était pas que les buts.
Même Lisandro Lopez,
sa deuxième saison à Guingamp.
Oui, il a plus marqué que Drogba, mais non,
les amis, il y a trop de débat dans le débat. Il y a trop de débat dans le débat. On va s'arrêter là-dessus. D'ailleurs, on n'a même pas pu aborder le sujet justement des Jeux Olympiques.
Mbappé largement au-dessus.
Qu'attendez-vous de la sélection tricolore de Thierry Henry?
Griezmann, Giroud, Rabiot. Voilà.
Voilà, au-delà de 23 ans. Alors, toi, tu dis quoi?
Moi, rapidement. Moi, je préférais Gignac, Lloris et Mandanda même.
Et toi, Eladj?
Gignac, Mandanda et j'aimerais.
Mbappé?
Pourquoi pas? Après, je pense que le Real, ils vont pas le laisser. Bon,
et toi, non, mais dans l'absolu.
Dans l'absolu, dans l'absolu. Mbappé. Griezmann, Mbappé et.
Ah bah oui.
Et toi, Stéphane?
Mandanda.
Moi, je peux pas aller dans l'absolu. Bien sûr, dans l'absolu, Mandanda, c'est n'importe quoi. Dans l'absolu, Maignan, voilà, le meilleur gardien.
Non, mais Maignan, oui, mais bon, Maignan lui-même.
Stéphane ne veut pas se mouiller. Alors, chacun.
Le cas surtout, c'est que.
Moi, je m'étais.
C'est surtout dire sur la les JO et on commence à le voir maintenant. Ça fait en tout cas moi.
Stéphane, les trois, on est à 59 là. On va boucler les trois que tu cites.
Je cite pas. Il n'y aura personne, donc je vais pas dire n'importe quoi. Je pense que s'il s'en sortait avec Payet, Raphaël Varane. Et puis, je ne sais pas qui, un milieu de terrain retraité. Et N'Golo Kanté, voilà. N'Golo Kanté, Payet, Varane. Voilà.
Mais c'est son avis. Et
moi,
et toi?
Moi, je mettrais Griezmann, Griezmann, Ibu Konaté avec lui, avec Marcus Thuram, parce que je vois que les espoirs, il manque vraiment de tuer Marcus Thuram.
Bah c'est son avis, ça se respecte, les amis.
Marcus Thuram,
merci beaucoup, Cheikh Enza. Bah, sauf que Diakité, il a déjà porté la tunique ivoirienne, donc il ne pourra pas venir.
Non, j'ai pas dit Madiakité.
On retrouve le quotidien du sport.fr sur internet. Et là, non, il est l'heure, il est 22h pétante.
Rien à voir avec le foot.
Rien à voir avec le foot. Moi, je voulais faire une petite dédicace à Pauline qui nous écoute de Strasbourg. Gros bisous, Pauline, et à très bientôt.
À très bientôt, Pauline. Et puis, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre au bout du foot. Salut.
Victoire obligatoire, quelle que soit la manière, selon le sélectionneur.
On peut disserter, il n'y a qu'une chose.
Son équipe n'a pas le droit à l'erreur.
C'est le résultat.
Encore faudrait-il pour cela qu'il commence à jouer au football, ce qui n'a pas vraiment été le cas.
Vous suivez Au bout du foot avec Malik Eudy et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h, sur monparisfm.com.
Oh là là.